Aujourd'hui, c'est... je crois que Bison Futé, il a vu noir. Il y a des gros orages qui sont prévus normalement sur la région de Toulouse. Pour ceux qui nous écoutent en direct, donc faites très attention. Et puis là, il fait une chaleur...
Moite.
Mais bon, c'est après tout, c'est les vacances et tout. Ah, j'ai oublié de fermer la fenêtre derrière, sinon ça va être intenable dès qu'on va entendre passer le concert de nos amis les Pervenches. En attendant, vous écoutez Radio FMR. Tranquille, cool, il est midi une déjà. Alors, on y va sec.
Radio FMR présente le supplément week-end, le magazine des cultures geeks, avec du sport, Ultimatum, Das Creek et la participation exceptionnelle de JB.
Supposé, on n'est pas sûr qu'il soit là.
Non, je pense pas qu'il soit là, il est en vacances là.
Ah d'accord, disais aussi c'est l'été. Bonjour à tous, merci d'être
salut.
Vous êtes fidèles, de nous écouter avec trop tard parce qu'il fait trop chaud dans l'immédiat. Fait beau, il fait chaud, vous écoutez la radio, c'était un slogan qui avait beaucoup marché à une époque. Ouais, mon micro était un peu faible, excusez-moi. Voilà, c'est toujours un plaisir d'arriver un petit peu trop vite et de se mettre en place super vite. En attendant, ma foi, qu'est-ce qu'il va avoir dans cette émission? On va avoir un compte initiatique, il va avoir des ballons, il va avoir des bastos, il va avoir des coups de poing dans la gueule, et va y avoir de la musique classique.
Oh.
Eh oui. Et la musique en général, fait du sport, qui ferait mieux de placer son micro très vite, parce que sinon ça va être l'horreur. Mais c'est comme d'hab, c'est un... Attends, branche un autre casque à la place, sinon on va pas s'en sortir. C'est comme d'hab, hein, c'est un plaisir. Voilà, c'est une radio alternative, hein, vous
on
le savez.
On attend le dernier moment pour s'installer, c'est toujours très cool.
Hein, ouais, parce quoi, qu'on peut mise pas, en place professionnelle, rien à foutre.
Parce qu'on peut, on peut pas, en plus, en même temps, s'installer techniquement et finir de préparer nos chroniques, c'est pas possible.
Non, non, c'est comme moi qui essaie de caler l'atout pour le top 5 de tout à l'heure, c'est absolument infaisable. Donc,
il
ouais,
y a un top 5 ?
Je crois qu'il y en aura deux. Donc,
deux.
On verra ça tout à l'heure. Demain, dis-moi, qu'est-ce que tu as trouvé dans les kiosques susceptibles de nous intéresser cette semaine ?
Alors, moi je date un peu, puisqu'il s'agit d'un magazine bimestriel qui était pour mai-juin.
Laisse-moi deviner, c'était une chronique qu'on avait faite d'une autre revue qui t'a donné envie de la regarder ?
Il me semble que t'avais chroniqué un truc, effectivement, dans le genre. Non, non, c'est juste pendant les vacances, je cherchais un truc à lire, alors j'ai pris ça. Alors, depuis le numéro 2 est sorti avec Bart Simpson en couverture, et là, il s'agit du numéro 1. Avec donc J.J. Abrams en couverture, il s'agit de Geek le Mag. Alors bon, c'est vrai que il fallait quand même qu'on teste ce magazine dans notre émission. Il fallait bien que quelqu'un s'y colle. Alors c'est marrant parce que la nomenclature, c'est ils ont titré ça S01E01, hein, comme les épisodes, les saisons que
de,
tu regardes.
De Nerds. Qui est, c'est piqué à Nerds.
Pas, oui, bon, pas que Nerds, hein, puisque de toute façon, c'est quand même la nomenclature quand tu nommes tes fichiers de tes séries.
Et,
donc,
et c'est aussi la numérotation officielle de Weird depuis le début des années 90.
Oui,
bon, et voilà.
Bah, c'était pas pour dire qu'ils avaient inventé. Hein.
Voilà, pour dire qu'il manque un petit peu d'imagination, mais voilà. Bon.
Alors, Geek le Mag, donc c'est assez... Bon, alors on va commencer par parler du contenu. Donc, en couverture, J.J. Abrams, puisqu'il y a une interview du réalisateur du nouveau Star Trek. Un dossier Star Trek sur la série, sur qu'est-ce que... Les inventions techniques dans la série, est-ce que c'est plausible, est-ce que c'est pas plausible. C'est toujours un peu le même tout-team pour toute œuvre de science-fiction. On a...
Oui. Alors, ce qui est vachement marrant, c'est que dans le Science TV de ce mois-ci,
il y a exactement le même genre de questions, la science aux limites de l'impossible et tout, où justement ils essayent d'expliquer ce qui est possible, ce qui va pas être possible. Ils parlent de la téléportation, de la cryogénisation, plein de petites choses comme ça et tout, quoi. C'est assez rigolo. D'après justement des images de Star Trek, des petites choses. Oui. Alors bon, c'est assez rigolo que ça sorte en même temps, quoi.
D'ailleurs. Voilà, bon là, il est question aussi de vitesse.
À mon avis, c'est qu'ils se sont pas fait chier.
Là, c'est la vitesse supraluminique, les phaseurs, la téléportation, comme tu disais. Donc, on a un article sur les studios IG avec l'interview d'un des commerciaux, des représentants du studio qui est français. On a,
oui, oui.
On a le.
Oh, on connaît l'employeur.
On a le IG, pas Madhouse. Hein.
Ah, pardon, je me trompe.
On a le mythe du loup-garou. Enfin, un petit article dessus. On a un article, le téléphone rouge Moscou, Washington. On a
Le téléphone rouge entre les deux superpuissances à l'époque de la guerre froide.
Oui, oui. Un article sur Alan Turing. Donc bon, moi je passe puisque ça c'est pas du tout un truc qui m'a parlé à moi. On a une interview de
Alan Turing. Tu vois pas qui ouais. C'est l'inventeur.
Le nom me dit quelque chose. Mais...
C'est un mathématicien anglais avait participé à Gross Work Park à construire les fameuses bombes qui permettait de casser le code des Allemands et qui est l'initiateur du système informatique actuel.
Bien sûr.
Voilà.
Ah, tu as fait court, c'est bien.
Non, mais c'est l'un des fondateurs de l'informatique.
Oui, non, tu ne le lances pas dessus, on va passer trois plombes. Alors, on a une interview du duo,
je me retiens.
Du duo Morvan Bengal pour la nouvelle série de BD Naja. On a le dossier Morvan série. Donc on a Scrubs, on a les auteurs. Alors Lost. Attention, les auteurs sont vraiment des geeks. La preuve par l'exemple. Voilà.
Stop. Quand tu prends cette voix, moi, ça me fait penser, tu vois, un certain type de publicité qui commence par... Cette semaine, dans Micro Facile, comment formater une disquette sous Windows? Comment éjecter un CD sur Macintosh? Comment faire clignoter du texte dans Word? Et comment chercher une adresse dans Google? Micro Facile, toutes les semaines dans votre marchand de journaux.
Ouais.
Ça me fait un peu penser à ça, tu vois, quand tu... parce que j'ai l'impression depuis tout à l'heure que tu te retenais, tu vois.
Ben en fait, maintenant on va parler des trucs qui tâchent. Alors déjà, on s'est amusé avec un copain à dénombrer le nombre de fois où il y avait marqué geek sur la couverture, 7 fois. Hé hey, les geeks, c'est pour vous. Hé hey, les geeks, achetez-moi. Voilà, nouveau.
Voilà, seulement le problème, c'est que les geeks, c'est...
sucre.
Les geeks, c'est rare qu'ils achètent des journaux. Maintenant, ils lisent le web.
Il y a aussi une fois le mot nerd, alors ça compte pour triple hein, de geek. On a aussi hors dedans. Alors un truc qui pour moi qui est rédhibitoire, c'est qu'à longueur d'article, enfin, il y a plein d'articles où il parle de ça. Chaque fois qu'il est fait mention à Star Wars, il est dit que c'est un univers futuriste.
C'est au cas où on n'en est pas sûr.
Non, c'est pas ça. C'est que Star Wars, ça se passe il y a bien longtemps.
Il y a bien longtemps dans une autre galaxie.
C'est pas futuriste, c'est du Rick Fantasy, c'est pas de la science-fiction. Donc déjà, ils ont tout faux.
Attention, c'est Thomas là qui corrige.
Ah oui, on
là dessus.
Là, c'est rédhibitoire.
C'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant qu'il ait fait remarquer des points. C'est vrai que moi, ça me travaillait à partir du moment où tu le disais, mais là, t'as été plus rapide.
Là, déjà, ils le disaient une fois. Bon, là, tu te dis, bon, j'achèterai plus. Ils le disent plusieurs fois. Là, t'en es sûr. Alors sinon, aujourd'hui on est le 1er août, alors demain on est le 2, donc du coup c'est une private joke, mais on a un top 10 sur 10 raisons de sortir avec un geek, donc Chantal si nous écoutes, alors là on va, qui dit top 10 dit top 5, hein, et qui dit top 5 dit top 5.
Le top 5. Numéro 5.
Alors, ce top est fait par une nana, hein, donc c'est...
inquiétant.
Du point de vue des nanas.
Bon.
Alors, numéro 5. Les geeks ont un sens de l'humour des plus cyniques. Ce qui, au départ, est utilisé comme une armure, finit par devenir carrément sexy. Leurs blagues hystériques nous font décoller.
Ah d'accord, ok.
Numéro 4.
Les contre-cultures sont toujours plus excitantes que les autres. Les geeks voient large, ils ne passent pas leur temps à savoir qui du PSG ou de l'OM est plus fort, mais se posent des questions sur l'avenir du monde. Qui du bien contre le mal triomphera ?
OM, PSG ?
Numéro 3.
Ils ont mis à jour le concept même du mixtape. Ce qui était trop mignon il y a 15 ans avec leurs petites cassettes est aujourd'hui le meilleur moyen d'avoir les saisons entières de Grey's Anatomy, Gossip Girl, Beverly Hills et le The L Word à jour, bien rangé sur un joli disque dur.
Ah, déjà rien que le nom des séries, c'est une caricature des filles quoi.
Ah, ils ont pas parlé de Sex and the City. Hein. Ce ne sont peut-être pas les meilleurs danseurs qui existent, mais à force de jouer aux jeux vidéo, ils savent appuyer sur le bon bouton au bon moment. Une bonne coordination est toujours un plus sous la couette.
Ouais, c'est ça, comme s'il n'y avait pas de preuve vidéo que je savais danser.
Numéro 1.
Oh, c'est sur ça. Allez, vas-y.
Les autres types sont tous persuadés de savoir comment plaire aux femmes. Les geeks, quant à eux, sont plus ouverts aux messages différents et aux nouvelles expériences. Oui, maîtresse. Voilà, c'était le top.
Il y en a qui devraient regarder la pub pour Free qui passe en ce moment hein, sur les communications.
Et je vous ai parlé les 5 autres qui étaient encore moins rigolos.
D'accord, ok.
Ah, parce que c'est rigolo ?
Encore moins. Alors, je dis juste, voilà.
Alors, rappelons. Voilà, redonne les références de ce
donc,
top 5.
Le Mac, la référence du top 5 ?
Oui, top 5 a été écrit par journaliste de Geek Le Mag, le premier numéro.
Voilà, qui... Cassie Carpenter, son pseudo. Ou comment les femmes raffolent du Superman caché en Clark Kent. Alors, Geek Le Mag, donc, c'est le numéro 1 de mai-juin, 4,90€ en kiosque. Le magazine autoproclamé pour les geeks. Alors, forcément, les geeks, quand tu leur dis trop que c'est fait pour eux, ils passent leur chemin. C'est vrai qu'on pense... Ah oui, voilà, j'avais oublié. Alors, dedans, tu as aussi le fleuron de la culture geek. Alors, tu as pêle-mêle Tetris, Donjons et Dragons, tu as Star Wars, Blade Runner...
Super Comics.
Les Super Comics, t'as la Génération Club Dorothée, t'as Akira, tu as Dune de... voilà, tu as aussi X-Files. Et dedans, tu as une double page.
En clair, une fois qu'ils auront fait la liste de tout ça, ils auront plus rien, quoi.
C'est ça. Et dedans, tu as un poster en double page sur du pixel art. Alors, on va demander à...
Oui, donc Thomas ressort le poster en pixel art. Il a essayé de me le montrer sur ordinateur, mais... Ça n'avait pas marché. Voilà,
donc du sport, amuse-toi. Il s'agit de reconnaître les personnages ou des personnalités de la culture geek en pixel art. Donc ils ont demandé à un artiste reconnu pour ça. Donc du sport, si tu commences à vouloir retrouver, t'en as plus d'une centaine, donc t'as pas fini.
Ouais, mais enfin bon, ça va quoi. Michael Jackson.
Et sachez que si vous... Oui, bah, tu l'as en plusieurs exemplaires, période ouais, Billie Jean, période blanc, période noir, période MTV. Voilà.
Robin des Bois.
Oui, voilà.
Merlin l'Enchanteur.
Alors je dis, tiens, baisse-lui le micro. Alors, je disais, t'en as pas fini. Et sachant que si vous allez sur geeklemag.com, vous pouvez jouer à un jeu, vous pouvez recevoir le poster de ce truc-là avec le fond gris. Voilà. Bon.
Super. Accessoirement, si vous êtes surtout vous nous écoutez en direct, et excusez-moi si vous nous écoutez en direct, ce podcast, à mon avis... sortir un petit peu tard, c'est-à-dire demain. Sachez que demain, à EOS, dans le Gers, à 120 km à peu près de la ville de Toulouse, a lieu la fête de la bande dessinée de EOS, qui est une fête de village sur laquelle il y a une trentaine de dessinateurs. C'était Jean-Christophe Denis, Wildem Locher, je crois qu'il y a Jean-Christophe Augier. Il y a plein de dessinateurs. On a déjà donné la
Meister.
Liste. Meister, oui, pardon. Joël Azara. Il n'a pas réagi.
Du sport. Il a dit Joël Azara.
Takatakata.
Voilà.
Il est alors... content, il l'a placé. Et plein d'autres dessinateurs dans tous les styles, dans la BD franco-belge, dans le fanzina, dans la bande dessinée enfantine. C'est honnêtement, pour y être allé plusieurs fois, il y a vraiment une bonne ambiance. Ils font vraiment un très très bon boulot. Les auteurs en plus sont accessibles. C'est vraiment agréable. Ça change vraiment. Si vous connaissez Colomiers ou Angoulême ou les festivals BD de Toulouse, c'est pas une ambiance de foire, c'est au contraire, c'est quelque chose de beaucoup plus festif et vraiment très agréable. Ça vaut vraiment le coup. Plus d'informations, eauzebd.com, et c'est de 10h à 19h. L'accès est gratuit. Je vous le recommande chaudement parce que voilà, il y a quelque chose de vraiment sympa et je vais dire de pas trop professionnel, c'est ça qui est vraiment accessible.
Et surtout, il y a de l'alcool.
Oui, exact, mais à consommer avec modération, attention. Et je sais pas, peut-être que l'année prochaine, on va essayer d'y aller, ce serait quand même bien qu'on y aille au moins une fois. Surtout que ce sera leur 20e, normalement.
20e impact.
On va entamer les sorties bande dessinée. Malheureusement, j'ai tout sur le même CD et le CD est un petit peu loin. On va commencer avec Gunm. Non. Grossière erreur, c'est DMZ d'abord.
Tu fais signe en régie que non.
Voilà, exactement. On va commencer avec DMZ. De Brian Wood et Ricardo Burchielli. Ricardo Burchielli qu'on a interviewé donc l'an dernier sur cette série DMZ pour Demilitarized Zone, où en fait New York est en pleine guerre civile, et plus exactement c'est le lieu où les hostilités se sont figées. Le cinquième tome s'appelle La Guerre Cachée, c'est dans la collection Vertigo chez Panini Comics. Le cinquième tome est une pause, ça tombe bien, c'est l'été. Assez particulière, puisqu'en fait les auteurs s'attachent aux personnages secondaires autour de Matisse, ceux qui justement font intimement partie de New York et qui se débattent quotidiennement dans la DMZ pour réinventer une vie sociale, des relations et surtout trouver à manger. Des manipulations entre les deux camps, les combattants surexcités, les infos qui ne sont que des mensonges, les entreprises trop ravies de voir une guerre se transformer en un marché juteux et qui laissent volontairement pourrir le conflit pour laisser exposer leurs bénéfices. Tout ça ne suffira pas justement à détruire les habitants de la DMZ. Ce sont des destins en marge, celui d'un graffeur, celui d'un DJ, celui d'une petite frappe, celui d'une rejetée. Des destins qui croiseront les pas de Matthew, tous aussi déracinés que lui, certains plus motivés que d'autres pour refaire une vie. Rien n'est à redire sur DMZ, cette série est une claque. La division d'une nation qui s'était toujours crue unie, alors qu'elle se haïssait elle-même. D'une superpuissance gendarme du monde totalement désemparée pour remettre de l'ordre dans sa maison. N'importe quelle ville peut devenir Beyrouth ou Sarajevo, même celle que tout le monde a toujours cru la plus solide. Et après avoir lu cette série, il est urgent de se reposer la question. Qui sont les vraies victimes de la guerre et qui en profitent réellement? DMZ, c'est la liquidation des années Bush. Je le dis, je le répète. Et ça reste franchement une série absolument à lire. Brian Wood au scénario, Ricardo Burchielli au dessin. DMZ, tome 5, La Guerre Cachée, collection Vertigo graphique, collection Vertigo chez Panini Comics, excusez-moi, avec des styles graphiques très différents, et vraiment justement de ce côté-là, tout ne tourne pas autour de Matthew, tout ne se concentre pas sur Matthew, justement, mais sur les motivations de chaque personnage, et c'est vraiment agréable, et enfin, c'est renversant, voilà.
Moi j'ai plusieurs tomes de retard, donc je crois que je m'étais arrêté aux deux pour préparer l'interview de Burchielli. Alors il faut que je lise le 3 et le 4 avant.
Ça peut se lire indépendamment justement.
D'accord.
Oh là là.
Voilà, c'est un petit peu difficile. Voilà, j'ai fait une gaffe en faisant la prog musicale. Yukito Kishiro, c'est l'auteur de Gunm. On a parlé des Aqua Knight. On n'avait pas trop apprécié. Il a fait une autre série qui est en cours de réédition. Ça s'appelle Ashman.
Bon, moi, j'aurais trouvé ça pas trop mal, hein, franchement, Aqua Knight.
Par rapport à ce qu'il fait d'habitude, moi je trouvais que c'était franchement moyen.
Ouais, mais enfin bon, moi je connais pas trop justement, pris le truc en toute innocence, on va dire, et c'est un petit peu dépouillé, d'accord, mais enfin bon, comme c'est le premier, c'est celui qui, comme tu l'avais expliqué dans ta rubrique, pose les bases.
Oui, mais c'est une petite série de 3 tomes en fait, donc si tu as commencé le 1, c'est vite fini. Moi j'ai trouvé ça vachement léger. Qui se dit, c'est
plus enfantin par rapport justement au propos de Gunm et au public visé, quoi.
Donc, c'était sans prétention, c'était correct, mais moi je trouve que c'était vite oublié quand même.
En attendant donc Gunm Other Stories et Gunm Last Order 12, alors je vais commencer par la série principale de Yukito Kishiro, Gunm, plus exactement la série dérivée Last Order. On en est donc un final d'anthologie pour le fameux tournoi d'art martial, le ZOT. La deuxième demi-finale n'a pas encore eu lieu, que l'arène va dû être évacuée en catastrophe pour rénovation urgente. Non, je rigole bien sûr. Que tous les spectateurs ont signé une décharge, comme quoi leur mort ne saurait être imputable aux organisateurs. C'est juste qu'il y a eu un événement totalement inédit qui pourrait complètement retourner ce tournoi. Une équipe issue des qualifications est arrivée en finale. Ce qui est particulièrement gênant pour l'équilibre politique du système solaire, et surtout quelque chose de totalement improbable, la résurrection de Gali. Uniquement à partir de sa puce cerveau et de quelques nanomachines, comme ça. Un coup que même les docteurs d'Estinova, les malades furieux de grands méchants de la première série, considèrent comme un exploit. Pourtant, Yoko, qui peut désormais créer ex nihilo un corps de combat, se permet une petite pause. Faut dire qu'avant sa disparition, elle s'était permise d'entrer par effraction dans Merlin, le mythique ordinateur mondial, et qu'elle en était sortie toute chamboulée, voire même de sympathiser avec ses futurs adversaires. Bref, en haut de l'échelle de Jacobs, en orbite au-delà de Géru, une ancienne de la guérilla de Mars pourrait complètement changer la face du monde si jamais elle remporte le Zot. Et ça, bien évidemment, il n'en est pas question. Mais comment arrêter sans que l'opinion publique ne soupçonne manipulation ? Alors, bah oui, je reste complètement accro à l'univers de Yukito Kishiro qui s'amuse avec virtuosité à créer des personnages invraisemblables, qui sont de vrais salauds irrécupérables et qui cachent en fait ses sentiments honorables. Pour certains d'entre eux en tout cas. C'est tout le jeu de la série de deviner qui est qui dans l'affaire. L'auteur arrive à renouveler l'intérêt pour une trame qu'on aurait pu croire complètement linéaire. Un tournoi d'art martial où finalement les challengers arriveront jusqu'à la fin. Rien de plus bateau pour faire ronronner une série. Hein. Les Chevaliers du Zodiac, Dragon Ball, Olive et Tom.
Shonen, hein, c'est ça.
Voilà. Enchaînant en furie et scène contemplative d'un graphisme parfaitement léché, Yukito Kishiro reste surtout principalement un dessinateur impressionnant de maîtrise. Et à côté de cela, on a Gun Other Stories qui est sorti donc chez Glénat courant juillet. C'est un recueil plus épais que les séries normales de l'univers Gun. C'est en fait une compilation d'histoires courtes publiées pour un autre journal après la production de la série Gun. L'auteur confesse à ce moment-là avoir été dans une très mauvaise passe et que justement le fait de continuer à travailler et en plus sur un autre angle l'a mieux assuré. Il a subi un traumatisme personnel qui a profondément changé sa vie sociale, eu droit à un important tremblement de terre et se poser de sérieuses questions quant à ses qualités de mangaka. Oui, ça peut paraître surprenant pour quelqu'un de son talent. Il a tenté de changer de style pour faire la série Ashman, que lui-même confesse avoir voulu travailler dans le style sombre de Frank Miller. Et vous pourrez en juger lui-même, parce que Glénat vient de rééditer la traduction de Ashman. Ça date d'il y a 2-3 semaines. Du coup, à la lecture de ces pages très personnelles écrites par l'auteur, on comprend mieux certaines lignes de dialogue qui étaient dans le tome 10 de Last Order, mais aussi les différences graphiques entre chaque histoire. Dans Other Stories, vous y trouverez des aventures annexes. Par exemple, du Docteur Ido, au moment où il avait un chat qui s'appelait Gally. Comment est-il passé de la chirurgie humaine à la cybernétique ? Comment Gally a vécu la montée de sa célébrité en tant qu'espoir du Razor Ball, qui est devenu la petite Koyomi après la confrontation face à l'impressionnant Den. C'est un peu dommage que Glénat édite en France ses histoires courtes bien après avoir terminé la série principale, même si elle est en cours de réédition. La mélancolie de l'auteur se ressent, mais les histoires gardent toujours leur fraîcheur, mélangeant en poésie et brutalité, toute la finesse du cyberpunk, quoi. Gun Other Stories et Gun Last Order 12, c'est Yukito Kishiro et c'est donc chez Glénat, et ça reste un bonheur.
En parlant de ça, on parle de plus en plus en ce moment du grand retour d'un des plus grands réalisateurs en activité de films de genre, qui est James Cameron.
Ça fait que 15 ans, hein, qu'il promet.
Non, ça fait 12 ans, puisque Titanic c'est en 97. Et quand tu l'entends dans les interviews, alors bien sûr, ouais, il parle de son nouveau...
Promis, le Battle Angel Alita alias Gun. Ouais,
ce qui fait plaisir, c'est que dans les interviews, quand on lui dit quels sont vos projets et tout, il continue de parler de Battle Angel Alita. Donc c'est vrai que c'est assez courant dans le milieu à Hollywood de dire tiens, j'ai développé ce projet, maintenant il m'intéresse plus parce qu'il est passé dans d'autres mains, divergence artistique et tout. Et Cameron, c'est quand même l'un des rares réalisateurs où tu dis yes à tout ce qu'il dit. Et le mec, il continue de parler du projet, donc ça veut dire que peut-être qu'il sera pas fait dans les 5 ans qui viennent, mais c'est un mec qui tient quand même à mettre ça en image, donc wait and see, ça fait quand même plaisir d'entendre encore ça.
Personnellement, moi j'aimerais bien que ça soit du vivant du dessinateur, du Yukito Kishiro, et qu'il participe. Ça me semblerait la moindre des choses.
Ils font chier tous ces auteurs, mais non.
De toute façon, il devrait faire comme Alan Moore, hein, c'est-à-dire, tu me files le chèque, tu te démerdes.
Je ne sais pas si vous vous souvenez de la 200e émission où, entre autres, j'avais fait un long plaidoyer pour Apple Seed, qui est actuellement sur le blog de l'émission et qui va être pris par ActuaBD. Mais on avait fait un... On avait bricolé, on avait fait une sélection de 10 albums qu'on jugeait comme étant particulièrement fiers pour nous de vous avoir fait découvrir. Parce qu'on en a parlé un petit peu avant tout le monde et surtout parce que voilà, c'était une claque absolument retournante. On avait fait un premier vote avec les gens qui étaient dispo dans le studio. On a fait un deuxième vote avec les gens qui sont allés sur le site supplémentweekend.fr et qui sont inscrits au club des audilecteurs. Alors voici le résultat de la consultation.
Le top 5. Numéro 5.
Eh ben, pour un numéro 5, on a un ex-écho. On va commencer par Biotop de Apollo et Bruno, qui est édité chez Dargo. Une histoire de SF avec un dessin extrêmement épuré et dans le style funky qu'avait développé Bruno et qui est, je vais dire, plutôt dérangeante parce que c'est deux flics dans une station de scientifiques, dans un univers de geeks par excellence. Et là, on se dit, mais que va-t-il se passer ?
Une ambiance assez oppressante malgré un dessin en ligne claire très faussement naïf.
Le top 5. Excusez-moi. Numéro 5.
Le deuxième ex-écho, eh ben, c'est Orbital de Sylvain Runeberg et Serge Pelé chez Dupuis. On a l'impression que c'est un gros mélange, je vais dire, de la case des Métabaron, de Valérian et Laureline, de toutes ces séries de SF, space opéra pur jus, aussi bien graphique et scénaristique, sauf que tout se tient jusqu'au bout. Sylvain Runeberg fait un scénario qui semble déjà bien tourmenté et Serge Pelé a un graphisme absolument étonnant. Et c'est vraiment agréable et là-dessus, bah, on attend le tome 3 avec impatience. Avec impatience, excusez-moi.
Numéro 4.
Pour la 4, c'est DMZ de Brian Wood et Riccardo Burchielli. On va pas revenir là-dessus.
Numéro 3.
Fraises et chocolat d'Aurélia Horita, édité par les Impressions Nouvelles.
Ah, finalement, il y a beaucoup de personnes qui ont lu cette BD de cul, alors.
Hein. Ouais, ouais, ça nous a beaucoup surpris, mais voilà.
Étonne-toi.
Ils sont heureux sexuellement et on en est très heureux. Et c'est pas si voyeuriste que ça, finalement. Sachant que, depuis, l'histoire a une progression. Enfin, la vie, plus exactement, des deux protagonistes, Aurélia Horita et Monsieur Frédéric B, a une évolution qui est beaucoup plus triste.
Okinawesque.
Okinawesque, oui, c'est le cas de le dire.
Numéro 2.
Mutafukaz de Run, qui en plus a aussi été choisi par un jury de collégiens. Et ça nous a beaucoup fait plaisir.
Oui, le Conseil Général des Jeunes de Charente, pour voilà. Une BD ultra jouissive, qui mêle plein d'ambiances graphiques. Le mec, il se fait plaisir, il nous fait plaisir. Des histoires avec de la bonne vieille SF, avec des espèces d'envahisseurs et tout.
Numéro 1.
Orange de Benjamin. Ça me fait plaisir finalement parce que les 4 premiers, on les a tous reçus. Orange, on l'a reçu en direct. Ron, on l'a reçu en direct, on l'a eu en interview, justement pour la remise de son prix à ActuaBD Jeunesse. Aurélia Horita, on l'a reçu en direct. Et Riccardo Burchielli, on l'a eu en interview.
Bah ouais.
Alors finalement, qui c'est qui sont au fond ? De Gaulle à la plage, de Jean-Yves Ferry.
Qu'on a reçu aussi.
Bambi de Hatsuki Ken.
Qu'on a interviewé.
Voilà. Mertonville de Michel Falardeau, qu'on a essayé d'avoir en interview. Et finalement, le Canadien, on n'a pas réussi à l'avoir. Il avait un planning très chargé. Et le Visiteur du Sud, Voyage de Monsieur O, qui a eu le prix de la Asie SCBD. C'est totalement mérité. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal en faisant une présélection des 10 bouquins sur 5 ans que l'on jugeait vraiment indispensables. Et je sais que ça a été très serré dans les votes des audilecteurs. Donc c'est la preuve que, ben, justement, on n'a pas eu un choix qui était trop moisi.
C'est marrant, ça me surprend que t'es pas sélectionné Senseiya dedans.
Ouais, parce que peut-être la série était finie quand on a commencé l'émission.
Non, non, c'était une nouvelle série dont j'avais parlé. C'est si surprenant que tu l'aies pas mise.
Peut-être parce qu'elle faisait pas l'unanimité.
Non, c'est parce qu'on n'a pas reçu l'auteur, c'est ça.
« Midi 30 minutes pile sur Radio FMR, Red Snapper, Sucker Punch, extrait de l'album Making Bones. Et désolé, j'ai un peu la tête qui tourne, c'est pour ça que la réalisation et la lecture des articles, c'est un petit peu à désirer. Sur Radio FMR, c'est le supplément week-end numéro 206.
Ouais, par là.
Sucker Punch. Et maintenant, du fight.
Du...
Lo
Mais Xavier, c'était pas le bon jingle là.
Quoi ?
Ben c'est asiatique, c'est la baston, mais c'est pas hongkongais, c'est thaïlandais. Je t'explique, c'est un conte initiatique dans la Thaïlande du 15e siècle.
Laisse-moi deviner. Si c'est comme le premier, c'est où est mon éléphant ?
Ben, et tu crois pas, c'est bien dire parce qu'il y a encore un éléphant dedans en fait.
Ça trompe énormément.
Oui, oui. Moi j'en sors.
Mais... non, mais attends, dans ce cas-là, il faut renommer la chronique. Et mec, t'as vu mon éléphant 2 ?
Oui, oui, mais là, il a pas perdu, il se sert de l'éléphant pour taper des méchants.
En le prenant par la trompe, mais il est con, il va lui faire mal.
Ben. Alors, voilà, vous l'avez compris, on va parler de Hong Bak 2, la naissance du dragon, aujourd'hui, avec ce film 2 et avec. Tony Jaa, c'est son premier film qu'il réalise, avec aussi, alors je me suis amusé, Primrata Dej Udom et Santisu Promissiri. Presque. Ouais.
On a pris l'habitude de bien prononcer les Chinois, mais alors là, les Thaïlandais, bah, c'est autre chose. Hein.
T'aurais dû aller dans un resto. Vous pouvez me lire ça. Moi, je peux pas, je suis cambodgienne et thaïlandais, je peux pas les voir.
Attendez, je fais rec. Alors en Thaïlande, justement au 15e siècle, la famille de Tien a été massacrée par le terrible seigneur Rajasena, sur le point d'être jeté au crocodile. Qu'on le jette au crocodile.
Dino crocodile,
par des marchands. Alors il va être jeté au crocodile par des marchands d'esclaves, mais il est sauvé in extremis par Chernang, chef des bandits de Garuda, qui va le prendre sous son aile et lui enseigner bien sûr divers arts martiaux, le sabre japonais, le combat au sol, le nunchaku, la baston thaïlandaise. Mais Tien, qui a passé toutes les épreuves d'initiation, est surtout motivé par son désir de vengeance. Alors, c'est un film assez spécial puisqu'il a été en fait co-réalisé par Prachapikau, qui est un nom, si vous écoutez mes chroniques, il vous dira peut-être quelque chose puisque c'est le réalisateur du premier Hong Bak et de l'Honneur du Dragon. Alors pourquoi co-réalisé finalement et qu'il n'est pas crédité ? Parce que il se trouve que le tournage du film a été mouvementé puisque Tony Jaa, à un moment donné, a été porté disparu pendant un bon mois, quelques semaines en tout cas. Alors déjà, suite à un désaccord...
Ah, c'est rien, j'ai juste été kidnappé.
Mais en fait, suite à un désaccord, déjà au départ, Prachapikau n'avait pas été prévu pour réaliser le film, les deux hommes s'étaient brouillés. Et il faut savoir aussi que c'est le film le plus cher de l'histoire du cinéma thaïlandais, et finalement, c'est Tony Jaa lui-même qui a été confié ce budget. Donc Tony Jaa, justement, nous a fait une de Gaulle, hein, puisqu'il s'est cassé, personne ne savait où il était. Et alors, il y a eu les plus folles rumeurs par la presse thaïlandaise, tout le monde disait oui, alors peut-être qu'il est allé pratiquer la magie noire, puisque dans le film, il est fortement question
de... C'est les Hongkongais qui sont jaloux de notre succès, qui l'ont kidnappé.
C'est ça, et puisque dans le film, il est fortement question de chamanisme, alors ils se sont dit, ah, parce qu'il est devenu un adepte de la magie noire, parce qu'il est peut-être parti pour méditer, il est parti en vacances, on sait pas, peut-être trouver une nana, il est peut-être parti trouver des sous suite à une fraude financière. Et en fait, pas du tout. Il est parti en juin. En juillet, Tony Jaa réapparaît, mal fagoté et tout. Il va voir les médias avec son avocat. Et il explique qu'il a craqué sous la pression, en fait, puisque il a été très affecté par les dépassements de budget. Bah, tu m'étonnes, premier film le plus gros du cinéma thaïlandais, c'est juste. Ça équivaut à. Entre 7 ou 8 millions d'euros seulement, mais là-bas c'est énorme.
En fait, là-bas il y a quoi ? Il y a 3 chaînes de télé, doit avoir 2 salles de 2 circuits de distribution pour les cinémas principaux.
Donc
ça doit faire mal. Hein.
Ben ouais, donc il a pas supporté, il a un peu craqué, surtout qu'il y a eu des dépassements de budget et tout. Bon, il a appris sur lui, il est allé méditer, il est revenu. Ce qui fait qu'on a quand même le film le plus ambitieux dans la carrière de Tony Jaa, qui est courte hein, pour l'instant, puisque ça fait le troisième film qu'on connaît. Alors c'est un film d'époque qui se déroule au 15e siècle, il y a des costumes, ils sont dans la boue, il y a des crocodiles, beaucoup d'animaux, il y a des éléphants, on l'a dit. C'est un film qui est empreint de fantasy, puisqu'il y a pas mal de doses un petit peu, pas d'au-delà, mais avec des personnages un peu olé olé, on va dire. Les combats, ils tranchent par rapport avec au précédent, puisque c'est pour ça qu'on a des bastons un peu en dedans par rapport au précédent film qui était vraiment punchy et qui, si tu veux, ça servait aussi de CV pour montrer que la baston thaïlandaise c'était pas juste des méchants dans les films occidentaux, mais surtout qu'ils savaient donner des gros coups de tatane qui étaient terriblement cinématographiques. Et donc là, justement, il a voulu s'affranchir de ça en mettant décoré un peu plus classique où justement dans l'histoire il apprend plusieurs styles de combat, donc on a du classique combat de sabre japonais, de les enchaînements au sol, la lutte vraiment très très près de l'adversaire. Il y a quand même quelques coups de genoux aussi, mais beaucoup moins présents qu'avant. Donc c'est vrai que c'est ce type de baston thaïlandaise qui impressionne vraiment chez Tony Jaa, et puis il est super bon là-dedans. Donc c'est vrai qu'il y a de quoi être un petit peu déçu en le voyant faire autre chose que ce par quoi il a été connu ici. Ensuite, par contre, t'as une putain de chorégraphie avec un éléphant. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, mais sauf qu'il le prend pas par la trompe. T'as des plans, mais pas coupés. Au ralenti, tu sais, comme quand ils font les films asiatiques où t'as le même plan montré plusieurs fois avec trois angles différents de caméra, où Tony Jaa il arrive à monter sur la tête de l'éléphant en courant et en prenant appui juste avec les pieds, avec les rebonds, un peu à la Yamakasi, mais sur l'éléphant, tu vois. En plus il casse la gueule à des gens en cédant des défenses, l'éléphant il moufte pas au milieu de la scène, en fait. Et déjà rien que l'idée de mettre en choré une baston mais dantesque, parce que même si c'est en deçà des autres, c'est quand même assez costaud. Là tu dis ouais. les bastons, c'est quand même du violent. Le mec, tu t'entends les craquements des membres et tout. Voilà, c'est quand même, c'est pas de l'île du Corée non plus. Et le fait aussi que ce soit un conte initiatique, puisque là, c'est assez ambitieux, on l'a dit. Le film, tu sais pas trop sur quel pied danser, parce que y a pas du tout d'humour dedans, qui contraste un peu avec les précédents. Et puis c'est quand même super violent. Le truc qui fâche, c'est que cette violence, cette ambition dans le film et ce côté vachement fantasy, tu dis ouais putain, et bien en fait nous on a droit à la version courte remontée par Europacorp avec près de 20 minutes de métrage qui ont été enlevés.
Est-ce que Luc Besson aurait envie de favoriser le piratage?
Oh ben il voudrait qu'il ne s'y prendrait pas autrement. En tout cas, le film est bancal. T'as des personnages au départ qui sont des intrigues secondaires, l'amourette quand il était petit et tout, qui disparaissent totalement du métrage après. On la croise à un moment donné au détour d'une scène, tu te dis tiens mais c'est elle. Et en fait ils se parlent pas et ils se cassent. Ouh, ça sent les trucs coupés.
Est-ce qu'il ne se prendrait pas un peu pour la Miramax?
Edward Cisorand, Harvey Cisorand n'est pas loin, effectivement.
Voilà, c'est qui est le surnom de...
De Harvey Weinstein.
Weinstein, qui est connu pour recouper tous les films.
Voilà. Et alors, t'as ça qui est bancal, t'as la fin qui est incompréhensible. T'as le film qui se déroule normalement, genre le mec, il a des épreuves, il est réussi. Au début, il est vraiment mal en point, mais il s'en sort. Il bute des méchants. Et puis, à un moment donné, la fin... où t'as un plan supplémentaire à la fin, tu dis c'est quoi ce plan, et une voix off qui te parle de trucs, je vais pas spoiler ici, mais qui te parle de trucs, de thématiques qui n'ont jamais été abordées dans le film avant, et tu te dis que on dirait que c'est d'un plan d'un autre film qui a été mis dedans avec Tony Jaa qui a un autre look. En gros, il est question de karma, il dit ouais le film finit comme ça, mais en dentant son karma on peut faire des grandes choses. Et là c'est le générique. Avec évidemment du rap français, hein, placé par Luc Besson dessus, on s'adresse aux jeunes. Hein. Donc le film est super bancal, tu es désappointé, hein, franchement, à la fin tu te dis mais il y a des bons trucs quand même, alors tu es d'autant plus déçu, et tu sais pas s'il faut l'imputer à la version amputée, ou si c'est tel quel dans le film originel. Alors déjà tu te dis Ong Bak 2, quel intérêt l'appeler Ong Bak 2, parce que ça n'a rien à voir avec le premier Ong Bak. Réflexe, Besson, salaud. Enfin non, le film s'appelle Ong Bak 2 en VO aussi. Parce que j'ai vu sur le net, beaucoup taxer Besson de renommer aussi les films. Non, lui il est pour rien. Tu vas sur le site officiel en thaïlandais du film, ça s'appelle Ong Bak 2 aussi. Voilà, le film s'appelle comme ça. Quand il réfléchit, quand il y a des gens qui sont quand même optimistes et qui essaient d'expliquer la fin, tu dis ah, c'est peut-être pour ça Ong Bak 2. Mais non, en fait, bon... La fin, il faudra attendre, je pense, l'édition en DVD pour savoir le pourquoi du comment. Est-ce que c'est la vraie fin dans la VO? Est-ce que
ouais,
c'est
en import, à mon avis. Hein.
Ouais, mais peut-être qu'il y, a, il y aura la version. Ouais, mais si c'est édité par Europa, ils vont pas. Ouais, non, t'as raison.
Non, non, ils vont faire un plan marketing avec l'édition normale plus ouais. l'édition de luxe.
Non, non, ça, il le fait pas. Le justement, il le fait pas.
Non, non, mais attends, parce que ça va pas sortir en même temps, quoi. Dans un an, on va sortir le DVD.
Oui,
normal
mais c'est,
et
pas,
tout.
C'est pas la.
Et dans 3 ans, tu ouais. auras la version de luxe avec les scènes coupées, machin.
Ouais, bah, même s'il l'a fait pour le Grand Bleu, Luc et Besson alors... est contre.
Ouais, mais là, surtout, ça voudrait dire que regardez ce qu'on vous a enlevé, regardez comme la version originale est mieux. Donc là, je pense pas qu'ils le feront. C'est dommage, mais je pense qu'il faudra guetter un petit peu les articles sur le net quand les gens qui en parleront auront vu la version originale. Pour l'instant, c'est pas le cas. J'ai essayé de rechercher, mais j'ai pas trouvé. Alors, le film, sinon, il orne vachement sur un Seven Swords de Tsui-Hark ou de l'Apocalypto de Mel Gibson. Justement, j'avais un peu. Un peu pété un peu le film Apocalypto là, à sa sortie, mais je me rends compte que finalement il a influencé pas mal de films. C'est vrai que je pense que ça mérite un deuxième visionnage, dans le sens, je parle de ces références où ben, on a une femme corbeau dans le film qui on sait pas trop si c'est tiré de l'imaginaire du héros ou c'est vraiment le combat intérieur, puisqu'il est vachement fait référence à ça, et à un moment donné il va dans une grotte où il doit vaincre ses démons intérieurs et tout, personnalisé par des harpies. D'ailleurs, dans le film, la femme corbeau est jouée par Tony Jaa lui-même, qui est grimé. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, mais tu sens au détour de quelques plans toute l'ambition du film, tu dis oh, putain c'est vachement osé et tout, mais à la fin tu mais qu'est-ce qu'ils nous ont enlevé, voilà. Bon voilà, sinon j'ai deux petites parenthèses, je vais terminer là-dessus. J'ai désormais la certitude que les animaux vont bien dans les salles de cinéma, puisque je peux vous dire que c'était une des séances les pires que j'ai vues, puisque...
Attends, pire que Appleseed?
Appleseed, c'était le film qui était naze. Là, c'est dans la salle, si tu veux. Alors, je vais vous dire, hein, le public des films Europa... Si
c'est gaffe parce que les animaux aussi écoutent la radio.
Ouais, mais je m'en fous complètement. Si c'est ça le film, le public déjà des films d'Europa, ben, ils ont ce qu'ils méritent en ayant des films recoupés, puisque voilà. On se serait cru dans un hall de gare avec des passages incessants de gens qui allaient chercher le popcorn, qui revenaient, qui parlaient à leurs potes, qui allaient téléphoner à l'extérieur, qui revenaient. Des gens qui arrivent en retard, bon, ça, voilà, évidemment, il y en a eu à la toque. Les gens qui allument la lumière de leur téléphone, les gens qui téléphonent pendant le film, les gens qui mettent la main dans le popcorn et qui
ouais,
font
non,
bien
mais
frotte,
je l'ai
frotte,
déjà
frotte,
vu
frotte.
4 fois avec la carte illimitée, là il va lui mettre une tatane, donc je peux te répondre.
Ben non, vu que le 99% des gens étaient super déçus par le film, ils disaient quelle honte, voilà. Bon voilà, je pense qu'ils ont eu ce qu'ils méritaient. Nous, ça nous a bon, le film déjà on était désappointé déjà à la base, mais ça nous a encore plus voilà. Hong Bak 2, je pense qu'il va falloir guetter avec attention quand il y aura à disposition la version originale. Donc Hong Bak 2, La naissance du dragon, la version charcutée par Europa Corp de Tony Jaa, qui est encore à l'affiche.
Tu veux peut-être le jingle? Ou pas besoin?
Si tu veux, allez.
Bon, d'accord, allez.
On va respirer. Ah, non, non, non.
On parle de cinéma maintenant.
Maintenant on va s'élever. On va parler de Là-haut, le nouveau film des studios Pixar, réalisé par Pete Docter, à qui on devait déjà Monstre et compagnie, et co-réalisé par Bob Peterson, avec la voix dans le rôle du héros de Charles Aznavour, s'il vous plaît, qui est excellent, voilà. Justement, avant le film, il y avait toujours le sempiternel petit court-métrage de Pixar, qui est très rigolo, là il est question de nuages avec des cigognes. Donc je vous parlerai. Ah ben ouais, voilà, il y a une cigogne qui est pas contente de ce t-shirt du sport. T'as eu du nez, c'est bien.
C'est un fait exprès ou c'est un peut-être plus vieux de court métrage?
Non non, c'est un film qui à chaque fois qui a un rapport avec le long métrage qui succède.
Je te rappelle que justement dans d'autres courts métrages, ils avaient passé d'autres films et qui en fait étaient beaucoup plus vieux.
Oui non, mais là on voit que techniquement c'est un film qui a été fait il y a pas longtemps, ce court métrage.
D'accord.
Et alors ça, le film Là-haut raconte l'histoire de Carl Fredricksen, donc qui est un vieux monsieur qui décide du jour au lendemain de vivre le grand rêve de sa vie en voyageant dans sa maison, suspendue par des milliers de ballons. Mais il se rend vite compte qu'il n'est pas seul dans cette maison volante, puisque le petit scout Russell a embarqué au dernier moment à l'insu de Carl. Alors à la recherche d'un lieu paradisiaque en Amérique du Sud, près des cascades, ils vont rapidement découvrir que les lieux les plus reculés sont quand même habités. Alors je suis vachement évasif et je raconte que ce qu'il y a dans la bande-annonce parce que franchement c'est fait partie des films moins on en dit et mieux c'est. Parce que vraiment, en plus quand on connaît les Pixar où ils ont la faculté...
C'est pénible hein, ça.
Faculté extraordinaire de surprendre à chaque fois, tu te dis mais ils peuvent pas faire plus surprenant. Eh ben si, oh là là, mais c'est trop bien ce qu'ils font. Et ce qu'il y a de génial, c'est que c'est seulement le 10e film qu'ils font. Et t'as l'impression d'être un peu quand Disney s'est mis à faire les premiers longs métrages où il y a eu Pinocchio, Fantasia, Blanche-Neige, Dumbo, Bambi, tu vois déjà les premiers chefs-d'œuvre de Disney qui les ont quillés comme des perles. Ben là c'est pareil, tu sens qu'il y a naissance d'un studio qui est génial, qui bon naissance ça fait quand même quelques années, mais il continue
ça fait que deux siècles, hein.
Non, pas non,
enfin,
Disney,
15 ans.
Non, Pixar, ouais. Et c'est vrai que chaque fois que tu vois un long métrage, de toute façon, tu vas les yeux fermés. Ils pourraient te faire un film sur une usine qui ferme dans le nord et tout. Ça pourrait être génial aussi. Bon, voilà. Bon, déjà, le film, déjà l'intro, tu prends une claque parce que je pense qu'il n'y a pas eu d'intro si triste dans un film d'animation. Donc, déjà, ça arrache les larmes aux plus sensibles. Et puis surtout ce qu'il y a de génial dans le film c'est que bon voilà ils te disent bon voilà et le mec il va accrocher des ballons dans la nuit à sa maison il va s'envoler. Ils te disent pas voilà grande explication machin système non en fait le mec il pilote sa maison avec des cordes et puis il a accroché des draps aux fenêtres pour faire les voiles et tout mais ça c'est le concept et voilà la maison elle vole tu cherches pas voilà c'est l'histoire. Enfin ça c'est génial. Après, les plus cartésiens pendant le film ils verront évidemment dès le départ le sous-texte qui est pure mélancolie, tu dis ah, ça veut dire ça en fait, mais non, voilà. Soit tu fais le premier degré et tu t'embarques dans les nuages, soit tu vois avec le second degré, et puis voilà. C'est assez évasif, c'est n'importe quoi cette chronique, mais vous comprendrez quand vous le verrez. Après, ben voilà, c'est toujours le duo génial entre le petit scout tout en rondeur, parce que c'est une vraie boule, le petit gamin, il a pas de menton, il est tout mignon et tout, avec le vieux Carl qui a 78 ans, qui est tout en carré en fait, avec la mâchoire vraiment anguleuse. Au point de vue mise en scène, c'est vachement bien aussi, parce que t'as pas mal de scènes qui sont étirées en longueur, avec la fameuse scène dans la bande-annonce où il descend ses escaliers dans le fauteuil mécanique. En train de regarder la caméra, tout l'air blasé, et t'as des scènes qui sont pas coupées comme ça. Par exemple, il y a un personnage à un moment donné qui dit mais où ils sont passés, et t'as le petit scout qui est collé à la vitre, suspendu au ballon, qui fait pendant 15 secondes, et là t'as le personnage qui est en train de demander où il est, qui est en train de regarder comme ça, avec l'œil qui fait avec la petite veine, qui fait tic 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 tic. Donc voilà, c'est plein de scènes comme ça. T'as les créatures dans le film qui sont. T'as des chiens. C'est impossible de représenter ensuite des chiens en 3D sans penser à ces chiens-là, parce qu'ils vont trouver toujours la mimique qui n'a pas été représentée avant, et tu te dis mais pourquoi on n'a jamais représenté les chiens comme ça. Ou
Tu sais, je vais te faire rire, je fais une petite parenthèse assez rigolote puisque tu parles de chiens. Dans les dessins animés de Disney, on voit souvent des chiens qui dorment et qui font des mimiques très particulières. Et il y a un spécialiste du sommeil qui s'est posé la question au bout d'un moment et qui a dit mais attendez, on a décrit justement tous les troubles du sommeil que dans les années 70. Or tous les dessins animés de Disney, chaque fois qu'il y a un chien qui dort, à chaque fois est précisé l'un des troubles du sommeil. Et d'une manière la précision est tellement totale que ça en est confondant. Le mec, il a dit, à partir de l'année prochaine, mes cours, je les fais à partir des dessins animés de Disney parce qu'ils ont compris comment, justement, les animaux doivent être représentés et tout ça. Parce qu'ils passaient des heures avec à les représenter. C'est, à mon avis, c'est pas pour rien parce que Pixar aussi a dit que le patron de Pixar, qui est passé maintenant chez Disney, a dit, on rouvre les sections animation de Disney. C'est pas pour rien, parce que justement il y avait un immense travail d'analyse de ce côté-là comportemental.
Et tu disais justement la filiation autre que le fait que Disney ait racheté Pixar et qui distribue leurs films, il y a aussi une filiation.
Et que maintenant les patrons de Pixar sont devenus ceux de Disney Animation, voilà.
Voilà, et il y a aussi une filiation, justement, c'est assez flagrant sur ce film avec les films Ghibli. puisque là on peut pas s'empêcher de penser au château ambulant, puis vraiment ce traitement vachement plus mélancolique que d'habitude chez Pixar, qui est vraiment un peu la marque de fabrique des Ghibli, où t'as toujours une chronique douce amère avec un sous-texte super grave derrière, ou par exemple pour Kiki c'est la passage à l'adolescence, ou dans Pompoko la disparition de la nature et tout, et là c'est vraiment c'est flagrant également. Et bon voilà, c'est Pixar, je pense que c'est le film quand même le plus touchant qu'ils aient sorti. Et puis voilà, il faut au moins il faut arrêter d'en dire plus sur le film, il faut aller le voir tout simplement. Donc là-haut, une histoire de ballon des studios Pixar réalisé par Pete Docter, et il faut courir aller le voir.
Pearl. Vous écoutez le supplément week-end sur Radio FMR. sport.
Non, ce qu'il y a de...
C'est moi.
Ce qu'il y a de génial.
Étonnez-moi.
Ce qu'il y a de génial et que vous avez pas en off, c'est du sport qui tente désespérément de faire une espèce de planning juste avant la fin de la coupure musicale et qui, dans un geste,
Bon, alors, le disque, tu mets le morceau que tu veux. Enfin, pas maintenant, hein, d'accord. Et puis, on le fera juste avant.
Mais tu sais que moi, après, j'enchaîne les CD et ton CD, je suis obligé de le sortir.
Ouais, et après, tu l'oublies.
Oui. c'est maintenant, il faut passer le numéro 15. Ah, quoi?
Alors, j'explique aux auditeurs, aux auditrices et également au type qui a la technique et tout. Alors, deux parties. Donc, la première, c'est le tout venant avec pas tellement de séries. Beaucoup de musique, on va dire beaucoup d'émissions musicales ou de concerts, de trucs comme ça, et ensuite la partie film, hein, d'accord. On l'a loupé la semaine dernière, et là.
Tu l'as loupé.
Oui,
c'est moi qui t'ai appelé pour lui dire ça va passer. Ça va pas, non, il y a Berlin Brigade Criminelle.
Va donc te faire fouetter.
Et Berlin Brigade Criminelle, alors je sais pas quoi, mais j'ai jamais vu une série se terminer comme ça, ou du moins une fin de saison, parce que je sais pas s'il y aura une. A priori, il devrait y avoir une autre saison. Parce que la manière dont ça se termine hier, bon d'accord, ils ont résolu plus ou moins l'enquête qu'ils avaient en cours depuis les deux saisons, hein, ok. Mais ça se termine vraiment, bon, on va dire, c'est tu prends un choc, quoi, tu vois, quoi. Hein, c'est camion dans la gueule, quoi, hein, littéralement, quoi, tu vois.
Ah oui, il y a un personnage qui se prend un camion, d'accord.
Camion dans la gueule, et en plus, bon, bah ok, hein, c'est assez triste, quoi, il faut dire. C'est depuis hier, donc, hein, c'est la boîte à musique de Jean-François Ziegel. Et en plus, honte à moi, hein, mais vraiment honte à moi, hein, j'ai appris que c'était quand même la quatrième saison de Jean-François Ziegel. Mais il faut dire, pour ma défense,
c'est même pas pubé, il n'y a même pas de bande-annonce.
Non, il faut dire que, pour ma défense, avant, ça passait après minuit. Hein, c'est-à-dire que l'année dernière, on a eu une troisième partie de soirée, donc ça passait vers 22h30, 23h, donc c'était encore acceptable. Mais avant, c'est-à-dire les deux précédentes saisons, hein, c'était du après minuit, minuit 30, 1h du mat, quoi. Donc vraiment.
Je crois même qu'une fois, ils l'ont commencé à 1h30 du matin.
Ouais, non, bon.
J'étais claqué pour faire l'émission le lendemain.
Alors, c'est une émission qui s'attache à faire découvrir la musique classique, en grande majorité, quoi, on va dire. Mais à travers. Plein de petites rubriques qui sont vraiment très très ludiques et qui sont vraiment très très bien explicatives. Jean-François Ziegel est un vulgarisateur, et c'est pas péjoratif de dire ça, hein, en ce qui concerne la musique, en ce qui concerne les instruments. Il fait découvrir dans chaque émission un instrument qui a l'air un petit peu oublié tout, ou qui n'est plus joué que par 30 personnes de par le monde, tu vois. Les ondes Martenot, le Theremin, des trucs comme ça, quoi.
Le Theremin, non, il y a beaucoup plus de gens.
Oui, non, mais le Theremin, maintenant, ça revient à la mode et tout, parce que ça a été utilisé par des groupe de rock dans les années 70 et tout, et qu'on se dit, ah ouais, mais je me rappelle, hein, dans le temps, là, eux, ils jouaient que Theremin, ah ouais, allez, on le ressort et tout, quoi. Bon, le Mellotron, des trucs enfin comme ça, et des instruments encore plus vieux, hein, là, je vous parle des plus récents. Il y a
l'explication... Oui, parce qu'en général, c'est pas des instruments électroniques, c'est plutôt les instruments acoustiques, avant années 20. Hein, la grande exception, c'est le xylophone.
Ouais. Mais... Alors, ce qui est vraiment très très intéressant, c'est que il explique les choses, non pas avec des termes techniques, quoi, qui pourraient être incompris de la part des profanes, mais justement, quoi, il arrive justement à bien expliquer clairement, quoi, comment les choses sont, l'historique des morceaux musiques, l'histoire des musiciens. Enfin, c'est vraiment très 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 plaisant. On n'a pas l'habitude, hein, d'écouter beaucoup de musique classique. Mais là, bien, il arrive justement...
Tu n'as pas l'habitude.
Si, mais enfin, quand je dis « on », hein, c'est-à-dire que la majeure partie des gens qui écoutent Radio FMR et tout, bon, hein, d'accord, quoi. Ok. on tombe quand même sur le cul. C'est très bien, très, très bien foutu. C'est pas chiant parce que les rubriques sont assez courtes. On passe d'une rubrique à l'autre assez rapidement et tout. Donc, on n'a pas le temps de trop s'emmerder à regarder cette émission, la boîte à musique de Jean-François Ziegel. Le vendredi prochain, donc, 22h10. Hein, c'est vraiment bien, quoi. Chapeau, quoi, les gars, hein, et les filles. Et donc, vendredi prochain, 22h10, ce sera spécial Russie. et Balkans avec Rachmaninov, Tchaïkovski, Prokofiev.
Ah oui, donc il y a vraiment les classiques et les modernes en plus.
Ouais,
donc,
ouais,
Prokofiev,
ouais.
C'est quand même années 50, 60.
Non. Tchaïkovski, c'est le début du siècle. Prokofiev,
oui.
Pareil. Rachmaninov, c'est plus ou moins à la même époque, quoi. Tu vois, c'est fin du siècle dernier et début de ce siècle. Hein.
Non, début de ce siècle, c'est 2000.
Début du siècle dernier, quoi, tu vois. Avec la participation pour les... alors, bien sûr, il y a toujours un invité musicien qui est virtuose, quoi, généralement, quoi, voire plusieurs, et qui vous montre un petit peu ce que c'est de travailler depuis l'âge de 5 ans jusqu'à je sais pas quoi, et de faire partie des meilleurs orchestres du monde.
De pas avoir de vie.
Et là, ce sera le cas de Mikhail Rudy, qui est un russe, donc, qui est pianiste, hein, qui est pianiste virtuose, donc, et qui nous fera la totale, à mon avis. Par contre, bon, du côté des invités, on peut toujours tiquer, hein, parce que hier soir, bon, bah, j'ai un petit peu regardé...
Non, mais on sent vraiment la patte, tu vois, de production d'une émission de variété. Les applaudissements incessants sans queue ni tête. Le public applaudit, des fois, pour n'importe quoi. Et puis, comme tu dis, comme tu allais le dire, les invités...
Voilà, alors bon, est-ce que les invités sont là uniquement pour appâter le chaland, quoi, et dire « Venez, il y a un machin dans l'émission, donc ça vaut le coup, il va dire deux, trois phrases intéressantes, quoi, sur une heure et demie d'émission, donc ça vaut le coup, et tout, tous les fans vont être là, ouais, super, et tout. » Bon, c'est un bon hameçon, moi, je trouve, hein, c'est pas mal, quoi, pour arriver à intéresser les gens à ce genre de musique, hein, et à ce genre d'émission. Moi, je trouve que ça peut valoir le coup parce que, hein, on va dire, pour 20 personnes qui vont dire « Mais c'est quoi cette merde, je zappe de nouveau ?» S'il n'y en a qu'une ou deux qui disent « Ah ouais, c'est bien, je découvre quelque chose », moi, je trouve que c'est déjà pas mal, quoi. Franchement, je trouve que c'est déjà pas mal. Alors, au niveau des invités...
Moi, j'ai un avis arrêté, c'est on peut faire découvrir la musique classique autrement. Je pense à Bill Bailey.
Oui, mais toi, t'as toujours que des avis arrêtés, justement, quoi.
Mais il fait une excellente émission, je ne reviens pas là-dessus. Mais ce qui me fait chier, c'est la production, c'est ses applaudissements, la manière dont sont faits les éclairages. Je te filme au désentrelaceur, manière Gérard Pulicino. Et allez, un public de télé, allez, on applaudit. Putain, c'est une émission de musique, pas de cacophonie. Les applaudissements, il n'y a rien de plus désagréable là-dedans.
Ouais, bon, bah ok, hein, moi j'ai toujours dit que les applaudissements c'était antidémocratique, mais bon, ça ne m'engage que moi.
Tu penses à l'élection du président de Radio FMR, là.
Non, mais en général, hein, de toute façon, quoi. Alors, au niveau des invités, bon, on peut tiquer, on va dire, mais le choix a l'air un peu plus pertinent que la semaine dernière, parce qu'il y aura Catherine Lara, qui est quand même violoniste.
Qui joue du violon debout.
Hein, voilà. Non, mais qui est violoniste virtuose, pas virtuose, mais enfin bon, qui a une formation classique de violon, là, il n'y a pas de problème.
Elle sait en jouer.
Patrick Fiori, bon, on va dire que c'est pour le cautionnement de la voix.
C'est un artiste lyrique
au départ.
C'est un interprète au départ, je crois même qu'il avait fait des morceaux classiques, hein. c'est comme ça qu'il avait commencé.
Non, il a commencé différemment, mais bon, il s'est, avant de connaître un petit peu le succès et tout, quoi, il a plus tourné dans les formations classiques pour manger. Et Arthur H. Et là, bon, bah, Oker se dit, ah bah ouais, pas mal, ouais, ça peut être intéressant parce que le bonhomme est ouvert à toutes les musiques. Son parcours musical est pratiquement sans faute, quoi, il faut dire ce qu'il est, assez éclectique. Donc on peut se dire que ça peut être pas mal.
Ça vaudra le coup, ouais. Vraiment.
Donc c'est la boîte à musique de Jean-François Zigel, c'est vendredi prochain, enfin ça va être tous les vendredis du mois d'août, hein, de toute façon, quoi, sur France 2, en deuxième partie de soirée. Là, vendredi prochain, c'est à partir de 22h10.
C'est bien dommage que ça ne soit pas le reste de l'année, et franchement, depuis fin juillet, on guettait dans les programmes, aïe pas encore. C'est vraiment dommage, ça vaut vraiment le coup d'œil. Sincèrement, d'oreille, pardon.
Alors, il faut aussi dire que au niveau musique, cette semaine, c'est Arte, hein, qui va beaucoup nous diffuser de musique, de concerts, des trucs
Summer
comme ça, de
80s.
Documentaires, on va dire. Alors, traditionnellement, c'est le Summer of the 80s, encore tous jusqu'à la fin du mois d'août. Donc, le mardi, le jeudi, quoi, c'est la case où on parle justement plus ou moins de musique de cette période. Et mardi prochain, 20h45, le documentaire est inédit, donc est très récent, hein, 2009, hein, un documentaire de Philip Priestley, quoi, Dr. Prince et Michael Jackson, parce que dans les années 60, t'étais Beatles ou t'étais Rolling Stone, dans les années 80, t'étais Jackson ou t'étais Prince. Tu vois, c'est pas compliqué.
Et je crois qu'ils l'ont déjà diffusé. Si c'est celui que j'ai vu, il est très très bien. Et alors, vraiment scotchant.
C'est mardi prochain sur Arte à partir de 20h45.
Parce qu'ils l'ont diffusé un petit peu en avance à cause du décès Michael Jackson, il me semble.
Peut-être. Alors, c'est suivi à 21h55 de cette émission dont je vous ai parlé la semaine dernière qui s'appelle Pop Gallery Reloaded, un documentaire qui fait 50 minutes et qui raconte un petit peu la vie d'un artiste, la carrière d'un artiste ou d'un groupe. Et là, eh bien, il s'agira de U2 mardi prochain à partir de 21h55. Arte qui vous propose également aujourd'hui à 18h05, et là, je suis sûr que Bruce, pour une fois, il va regarder Arte, tu vois, quand la première fois de sa vie, peut-être qu'il va regarder Arte. 18h05, Fou de métal en campagne, un documentaire sur le Wacken Open Air Festival. C'est un gros festival de métal.
De motocyclistes,
de métal en Allemagne. Et un peu plus tard, en fin de soirée, en début de nuit, on va dire à 0h50, l'excellent film de Jonathan Demme, qui est en fait un concert filmé des Talking Heads qui s'appelle Stop Making Sense, qui est vraiment très très bien. Vraiment très très bien. Arte qui, dans sa case du jeudi, donc.
Faut peut-être
Summer...
expliquer que les Talking Heads, c'était plus qu'un groupe musical, c'était un groupe de performeurs. Et c'était les premiers à avoir énormément exploité la vidéo, le trucage vidéo.
Oui, d'accord, oui, ok. Non, ouais, bon, ok. Mais c'est surtout un des premiers groupes, surtout leur leader David Byrne, hein, qui, au bout de 3-4 albums, a commencé à se tourner vers les autres musiques du monde, vers les musiques du monde, hein, à savoir la musique africaine. Il est allé voir à Cuba et tout, enfin, un petit peu partout, quoi. Et donc, Stop Making Sense est à cette période-là, quoi. C'est-à-dire, c'est pas les premiers Talking Heads, hein, groupe new-yorkais, ténébreux, intello. Non, là, c'est un petit peu plus vivant. Ça booste plus. Et il faut dire qu'entre-temps, eh bien, les deux des membres de Talking Heads, hein, Tina Weymouth et Jerry Harrison, avaient quand même sorti un des gros tubes de l'année 83-84 qui était Genius Rap. Rappelle-toi. Enfin, je chante très mal, mais enfin bon, ça a été un super gros succès. C'est con, j'aurais pu ramener le morceau, mais bon, hein, il va me dire non, tu vas pas durer jusqu'à 2 heures, faut quand même pas déconner. Alors jeudi, toujours sur Arte, dans la thématique Summer of the 80s, tout d'abord un film, hein, le jeudi à 20h40. Alors tout le monde l'a déjà vu celui-là, mais enfin bon, il se regarde toujours avec plaisir. Paris, Texas de Wenders.
Moi pas, j'ai jamais vu.
Et avec la musique de Ry Cooder, quoi.
Ah si, Paris, Texas, c'est quand il y a Natasha Atkinski derrière la vitre.
Voilà. Ok. Suivi d'un documentaire à 23h05, Le monde de Peter Gabriel, qui est plus à propos des 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il a créé son label Real World, qui nous sort vraiment, qui a aidé à populariser la musique.
La,
pas
la world music,
la world, ce qu'on appelle à tort la world music, hein.
Qui est en fait la musique, je veux dire, en version originale, c'était des 5 continents.
Bah, c'est-à-dire que à la place d'enregistrer de la musique chez les gens qui ont l'habitude, hein, c'est-à-dire l'Europe, les États-Unis, on va voir ailleurs, hein, sur les autres continents. On n'a pas l'habitude d'aller chercher la musique. Où il n'y a pas de structure non plus, quoi. Et donc Peter Gabriel est un des premiers dans les années 80 à inviter des artistes black, des Africains, des Cubains à venir enregistrer dans son studio en Angleterre. Il s'est fait construire un super studio d'enregistrement en Angleterre et là, il a produit vraiment pas mal de gens et là justement aidé à populariser vraiment beaucoup de gens, hein, qui auraient eu certainement beaucoup de mal à émerger sans lui.
Oui, sauf que la world music dans les années 90, c'est devenu un peu la dance mélangée avec des espèces de chœurs à la con.
Non, justement, c'est pas ça. Hein. C'est tu prends un disque Real World, c'est vraiment justement, c'est la vraie world music. Et moi, je me souviens quand j'étais quand à la radio, je voyais arriver les disques, etc. Les disques de ce label-là, tout le monde les attendait parce qu'à chaque fois, il y avait une curiosité musicale énorme. C'est comme quand tu écoutes RFI musique, t'es là. Tu découvres des trucs qui tabassent, quoi. C'est impressionnant.
Voilà, il faut dire aussi que ça, c'est juste un aparté. Charlie Winston est signé sur Real World.
Oui.
D'accord. Et c'est suivi donc de Peter Gabriel à 23h05 à minuit en autre Pop Gallery consacré à un monsieur qui a eu plusieurs disques de platine, mais qu'on connaît vraiment pas tellement. Il est canadien. Mais vous avez certainement déjà au moins écouté un de ses morceaux qui a été la bande originale d'un film qui a marché du feu de Dieu. que c'est une grosse merde parce qu'il y a un autre film qui est sorti à côté, le même et qui était vachement mieux. Le Romain des Bois de Kevin Costner, c'est Bryan Adams.
Oh non,
ah si,
j'aurais dû m'en douter. J'aurais dû le voir venir.
Mais non,
Canadien déjà. Oh.
Et alors comme Mike Myers, comme William Shatner. Alors,
bon. Non, il est très bien le Kevin Reynolds de Robin des Bois.
Ouais, mais il y a le Robin des Bois anglais qui est sorti pratiquement en même temps, qui est vachement mieux.
C'est
vachement mieux. Ah ouais, qui est officiellement un téléfilm.
Et ouais.
Mais qui est vachement plus proche de la réalité, quoi. Et bon, bah ok. Hein. Alors, maintenant, là c'est le mariné de l'été, mais moi j'apprécie toujours autant. Alors je suis sûr que vous l'avez loupé dimanche dernier, quoi. C'est dans la collection Suite Noire sur France 2, après Urgence, dimanche soir vers 22h50. Hein, c'est l'adaptation en petit téléfilm, hein, le format assez court, hein, c'est format 1h10, 1h05, c'est pas vraiment un téléfilm d'1h30, quoi. Et bon, bah, c'est l'adaptation d'un roman noir, hein, d'auteur français. Alors là, il s'agit de La musique de papa de Dominique Cabrera, qui nous a déjà fait le Quand la ville mord de la semaine dernière, hein, avec la blaquette et tout, bien sanglant celui-là. Là, c'est.
Ah non, bien mais sanglant, quoi. Ils déménagent tous et à la réalisation, ils sont délirants.
Ouais. Non, mais vraiment, on se demande, bon, bah, ok, on se dit, bon, bah, ouais, là, on adhère, on est content. Alors, La musique de papa de Dominique Cabrera avec Antoine Chappet, Léo Grand-Perret et Agnès Soral. Là, oui, pas mal. Oui. Si, moi, il n'y a pas de problème. De toute façon, je suis convaincu, hein, depuis le premier. Il n'y a pas de problème. C'est donc sur France 2 demain soir à 22h50, Suite Noire, la musique à papa. Dans un registre complètement différent, Canal Plus Cinéma nous propose un documentaire qui a l'air assez intéressant quand même, de Albert et Alan Hughes, les frères Hughes, hein, qui nous ont fait plusieurs films quand même, quoi.
Ils ont fait From Hell.
From Hell, entre autres, quoi, tu vois, c'est pas n'importe quoi. Et qui nous signe un documentaire qui s'appelle American Pimp. Le pimp est le macro, le proxénète, et ça raconte donc dans ce documentaire le proxénétisme aux États-Unis et la représentation au cinéma des proxénètes, surtout en ce qui concerne la blaxploitation, hein, ou
qui les bons tuyaux,
un certain bouquin de Iceberg Slim qui s'appelle Pimp a été une bible pour un nombre assez incroyable de hip-hoppers actuels. Ça a été le livre de chevet de Ice-T pendant des années, d'ailleurs toutes les œuvres d'Iceberg Slim. Et bon, bah ok, hein, c'est, on adhère ou on adhère pas, mais ça a été une réalité à une certaine époque, hein, tu sais, dans les films de blaxploitation, quand tu vois les mecs grands manteaux de fourrure et tout, les mentons longues telles, les trucs pas possibles et tout, quoi. Enfin bon, c'est la vision caricaturale qu'on a du proxo aux États-Unis et tout, mais peut-être que dans un documentaire, eh bien, on rétablira une autre vérité, une vérité peut-être un petit peu différente. Donc c'est sur Canal Plus Cinéma. Lundi prochain à 22h30. Sinon, alors, séance de rattrapage pour ceux qui ont loupé les premiers épisodes d'Epitaphios, cette excellente série.
J'aime bien la mimique faciale dont vous avez échappé.
Je le note.
Argentine, donc, produite par HBO Sud America. Ça passe sur Paris Première. Alors, vous avez loupé les premiers épisodes qui passaient donc la semaine qui s'achève. Mais il y a rediffusion lundi prochain à 23h40 des trois premiers épisodes. Et jeudi à 22h30, donc, eh bien, les deux épisodes suivants, le 4 et le 5. Alors, moi, je mets juste un bémol. Moi, je trouve que le 5, c'est celui qui m'a fait le plus chier parce que c'est celui où il y a moins d'action et tout. Et c'est celui qui s'attache sur la relation sentimentale entre les deux personnages. Oh mince alors, hein, dingue et tout, quoi. Ça fait vraiment super mélo et tout. Bon, c'est bien foutu, c'est nickel et tout. Mais ça tranche vachement avec les autres épisodes qui sont bien plus trash, qui sont plus enquête policière, traque du serial killer et tout le bordel. Dans un même registre, mais un petit peu plus cool, on a été agréablement surpris, hein, par cette adaptation franco-française d'Agatha Christie, Petit meurtre en famille, qui sera diffusée sur France 2 mercredi prochain à 20h35 qui avait déjà été diffusé, mais bon, c'est agréable pour les gens qui ont loupé ces téléfilms de les revoir. Petit meurtre entre familles, le premier, il y en a deux carrément à la suite, hein, c'était deux fois 1h30 quand même. Le premier avec Robert Hossein, Elsa Zilberstein, Frédéric Bell et Marius Colucci. Et le deuxième avec Antoine Duléry, Bruno Todeschini et Serigne Mbaye, entre autres. C'est mercredi prochain à 20h35 sur France 2.
C'est plutôt bien adapté parce qu'ils arrivent à vraiment passer le côté français sans vraiment trahir Agatha Christie.
Voilà, non, mais c'est bien.
Le côté bourgeoisie et tout le reste, non, c'est surprenant.
Non, c'est vraiment bien foutu. Il n'y a rien à dire, hein, de toute façon. Quoi. Passons à la chaîne des vieux maintenant, Vivolta.
Ah, okay. Il allait dire Arte, mais il en a déjà parlé.
Il y avait longtemps.
Non. Vivolta qui nous fait des fois des petits documentaires qui sont vraiment très sympas, hein, qui sont complètement à contre-courant. C'est allez, on te fait un document la semaine dernière, un documentaire déjà vu sur la vie de Howard Hughes, mais vraiment très très intéressant. Hein, traité de manière un petit peu bizarre et parcellaire, on va dire, mais bon, ok, il y a quand même des trucs pas mal et tout, quoi. Où il y a des petites plantages, alors dans ce style et tout, Howard Hughes, il a toujours voulu se taper toutes les nanas, hein, et il a voulu toujours se taper Ava Gardner, et il a jamais réussi à se la taper et tout, quoi. Et après, vers la fin du documentaire, t'as carrément les photos de toutes les nanas qui s'est tapé, toutes les actrices connues, tu vois, quoi. Alors, bon, tu vois la liste, tu dis, bon, d'accord, ok. C'est bien d'être Howard Hughes quand même. Enfin, peut-être que c'est pas bien non plus, quoi. Et là, bon, bah, ok, il y a Ava Gardner aussi qui est dedans, quoi. Alors, tu dis, bon, bah, attends, où est la contre-vérité, quoi? Dans le premier commentaire ou dans le. Ou alors ils sont plantés, tout simplement. Mais ça vaut le coup quand même. Là, il s'agit d'un documentaire en 6 parties qui s'appelle Au cœur de la musique soul. Ah ouais! Ah. Avec les deux premières parties qui seront diffusées jeudi prochain à 20h35. Et c'est suivi à 22h20 d'un documentaire sur quelqu'un dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, puisque j'avais chroniqué des films dans lesquels il était l'acteur principal, c'est Sidney Poitier. Call me Mr. Tibbs. Sidney Poitier, le rebelle, c'est un documentaire donc sur Vivolta. Jeudi prochain à 22h20. Et encore un petit dernier avant les films. Eh ben, il y a quand même une série, tu vois, inédite. Ouais. Qui sort comme ça en plein milieu de l'été. Alors, c'est dans la case dévolue aux séries de Canal+, le jeudi à 20h40. Et là, ça s'appelle Flashpoint. C'est une coproduction USA Canada, et bon, c'est un peu logique parce que ça se passe à Toronto, et ça raconte encore on va dire une histoire d'un commando d'élite, hein, qui est chargé de déjouer les complots terroristes et autres petites babioles comme ça qui empoisonnent la vie des gens de l'autre côté de l'Atlantique et tout. Nous on a l'air un petit, mais eux là-bas ils sont flippés, ils flippent leur race, tu vois, quoi. Alors
faudrait qu'ils lisent des MZ, ils seraient flippés d'eux-mêmes.
Ouais. Alors bon, Hugh Dillon, Enrico Colantani, ouais, ça c'est pas mal. Amy Jo Johnson, ouais, bon, pourquoi pas. Bon, on pourra quand même jeter un petit coup d'œil donc sur cette série Flashpoint, qui n'a eu que 9 épisodes dans la première saison, mais ça a suffisamment plu aux téléspectateurs pour envisager une seconde saison. Canal+, donc jeudi prochain à 20h40, Flashpoint. Et comme je parlais d'Epitaphios juste avant, il faut savoir que le tueur en série, du moins l'acteur qui interprète le tueur en série dans Epitaphios, eh bien, est également musicien. La preuve.
Besos llegaron después, me dijiste, me gustaron tanto, tal vez demasiado. Tu sonrisa fue como un faro, y ahí dirigí mi proa y mi tiempo. Parece que fue a tiempo. Comprendí que la brújula es la concentración. Concentración. Una dosis fue suficiente. Una dosis fue suficiente. Tus besos perturban mi calma casera. Bienvenida seas. Tus besos perturban mi calma casera. Bienvenida seas. Nuestro mini turismo, fotos y relajación. No no, 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 no tengas miedo. Si el cielo se mueve es a tu favor. Y si alguna estrella se cae, seguro que es para vos. Y si alguna estrella se cae, seguro que es para vos. Una dosis fue suficiente, una dosis fue suficiente. Tus besos perturban mi calma casera, bienvenida seas. Tus besos perturban mi calma casera, bienvenida seas. El amor es concentración. Tu amor es concentración.
Antonio Birabenz, Bienvenida Seas. Extrait de l'album sobrement intitulé Canciones.
Ouais.
Si, seigneur. Allez.
Et, bon, il est 25, j'ai encore 10 minutes qui me sont allouées par, gracieusement par Xavier, donc je vais speeder les films à présent. Alors ce soir, comme d'habitude, sur France 3 à 23h50, un chef-d'œuvre du cinéma, c'est Frenzy, Hitchcock avec Finch. Ouais. Barry Foster et Anna Massey. Sur RTL 9 ce soir à 20h35, un film dont j'avais déjà parlé. C'est pas un film, il n'est pas sorti en salle, c'est un téléfilm, mais quand même à gros budget, de John Lee Hancock en 2004 avec Dennis Quaid et Billy Bob Thornton entre autres, hein, parce que bon, bah, y en a plein d'autres, la distribution est assez impeccable. Il s'agit de Alamo, Remember Alamo.
Oui. Ouais, et grand film de propagande anti-mexicain.
Non, ça. Non, parce que celui-là justement est récent et bon, bah, on remet un petit peu les choses à plat. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. C'est pas les méchants mexicains et les gentils américains qui défendent leur.
C'est plutôt
non,
l'inverse.
C'est, bon, c'est bon.
Ouais,
voilà.
C'est les Américains qui envahissaient le Mexique. C'était surtout ça.
Alors sur Cinéfix ce soir, et, une curiosité. Hein, c'est suite à la série qui avait eu un gros succès, L'espion bionique de Haji Levy en 89 avec Lindsay Wagner et Lee Majors. Un téléfilm donc qui se laisse regarder quand même, enfin bon. Hein. Par contre, demain soir sur France 3, là, il va falloir veiller jusqu'à 1h25
oh non,
du matin.
Oh non,
mais
non.
C'est pour ça que les enregistreurs ont été inventés, mon petit gars. Le démon de la chair d'Edgar G. Ulmer en 46 avec Eddie Lamar. Oh là 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 là. Et George Sanders, excellent acteur. Mais Eddie Lamar qui a une excellente plastique, on va dire.
Je pensais que tu allais dire que du naturel.
Bah, bien sûr. Bien sûr. Tu le vois, ça tombe.
Oh non. Non. Non.
Sur Cinés, Cinéma Frisson, demain soir à 20h40, de Nick Arnold en 87. Tout de suite, tu vas me dire le titre, bien sûr. Frank Dux is back.
Ah oui, Bloodsport.
Yes, avec JCVD, bien sûr. Et TCM demain soir.
Bon, qui... il est juste naze comme film.
Ah bah attends.
Considéré comme le fleuron de la filmo de Van Damme qu'il a révélé.
À l'aise, avec le grand écart facial, mon gars. Attends.
Ouais, maintenant, Van Damme, il fait un grand écart sur un matelas. Alors.
Ah ouais, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout, quoi. Et il vend des téléphones. Sur TCM, une soirée spéciale, Suzanne Hayward. Ah ouais, ouais.
Oh, merde.
Alors, les deux ont été mises allongées par Howard, hein, faut le dire, faut le préciser quand même. Suzanne Hayward, alors, sur TCM demain soir, 20h45, tout d'abord, Le sang de la terre, un western de George Marshall en 48, avec, outre Suzanne Hayward, Van Heflin. Julie London. Alors Julie London en 48, donc elle était super jeune, hein, parce qu'on se rappelle qu'elle a fait son succès Cry Me a River en 57. Donc là, elle était super super jeune. Et surtout, à voir pour Boris Karloff, qui est là un indien, tu vois. suivi
un
à 22h35.
Roumain, un roumain en indien, ils en sont pas une contradiction près là.
Alors, suivi à 22h35.
C'est pas mal.
Du film qui est vraiment pas mal, hein, franchement, quoi. David et Betsabé de Henry King en 51, Uri Peck et Raymond Masset, et bien entendu, Suzanne Hayward. Sur Ciné Polar, alors celui-là, bon, bah, chaque fois qu'il passe, de toute façon, je vous en parlerai, ça n'a pas de problème. Tueur d'élite de Peckinpah avec James Caan, Robert Duvall, Arthur Hill, Bob Hopkins, Mako, ça, pas de problème. C'est sur Ciné Polar demain soir à 22h55.
Je vais vous faire marrer, je ne l'ai toujours pas vu.
Et sur Ciné FX. À 21h, demain, The Zombie Diaries, un film anglais de co-réalisé par Bartlett et Gates en 2006, avec Russell Jones et Craig Stowin.
À ne pas confondre avec Diary of the Dead.
Ah non, pas du tout.
Il y a Diary dans les deux.
Oui, oui. Non, non.
Shaun of the Dead, il y a Dead.
C'est pas pareil aussi.
Lundi, sur RTL9, soirée spéciale film, on peut s'en passer, il n'y a pas de problème. Tu vois le premier, tu les as tous vus. Les autres, c'est vraiment des daubes. Mais justement, le premier, il ne le passe pas. Donc, mais ça vaut le coup quand même, quoi. On va dire, juste pour rigoler un bon coup. Et pour voir la tronche à Lou Gossett Jr., c'est L'Aigle de Fer 2 de Sidney G. Fury en 88, avec Lou Gossett et Mark Humphrey qui remplace Jason Gedrick, qui était le héros du 1. Jason Gedrick, mais vraiment tout jeune, hein, genre ado et tout. À son âge, il a déjà son brevet de pilote, cet enfoiré là. Non, non, c'est pas possible. Et à 22h25, L'Aigle de Fer 3 avec Lou Gossett Jr. et Rachet McLeish, réalisé par un type qui, je crois, a fait un James Bond par la suite, John Glenn.
Ah bah plusieurs. John Glenn, il a fait la période cross des James Bond, voilà. C'était les navets, il en a fait 4 ou 5 là.
Voilà, et bien il a fait
il
également.
Lui. Que cela cesse.
John Glenn nous a pondu L'Aigle de Fer 3. Sur TF6, à 22h45, Légende sanguinaire de Tripride en 2006 avec Robert Chakotay, Beltran, Jeff Fahey et Chase Masterson. Il raconte l'histoire d'une bande de soldats en Irak et tout, qui croient qu'ils vont seulement avoir à buter des terroristes et tout, quoi. Mais ils y réussiront pas à buter le monstre sanguinaire qu'ils vont découvrir.
Je suis le zombie de Saddam Hussein. Et en fait, non, c'était un de ses sosies, donc il y en aura 14. N'ayons pas peur des mots.
Sur TCM, une soirée demain, lundi, pardon, spécial Karl Malten. Avec tout d'abord 20h40, alors là, c'est un des chefs-d'œuvre de John Ford, hein, Les Cheyennes en 64 avec La Distribution qui tue de la mort, Richard Widmark, Carol Baker, James Stewart, Karl Malden, Edward G. Robinson et Sal Mineo. À mon avis, Sal Mineo joue le rôle d'un Cheyenne. Ouais. Il n'y a pas de problème, quoi. Sal Mineo, c'est le mec qui se castagne avec James Dean dans.
La fleur de vie.
Tu sais, quand ils sont sur l'observatoire.
Attends, non, j'ai pas vu, moi, celui-là. Merde. Oh,
James Dean, il faut voir avec Sabrina.
Ah bon, voilà, bon, ok. Dans le James Dean, quoi. Bien que moi, je préfère Les Deden, quoi, mais bon, c'est mon goût personnel. Karl Malden, toujours, donc, sur TCM, lundi, avec après Les Cheyennes, à 23h15, un film de Mervyn Leroy en 62, Gypsy, la Vénus de Broadway, avec Rosalind Russell, Natalie Wood, Morgan Brittany et, bien entendu, Big Nose, Karl Malden. Lundi, sur Ciné Polar, séance de rattrapage pour ceux qui n'ont pas encore vu le film de Sidney Lumet, The Offense, avec un Sean Connery cassé.
Tu nous en avais parlé.
Qui a cassé son image James Bond. Là, il n'y a pas de problème, il l'a bien cassé. Trevor Howard, Vivian Merchant et Yann Bannen. Hein, c'est assez glauque comme ambiance et tout. C'est un peu nauséabond. Tu vois, c'est. C'était mal à l'aise, quoi, à la fin du film et tout. Pas parce que Sean Connery a l'air d'être vraiment le méchant du film, mais parce que bon, t'as l'ambiance du début jusqu'à la fin qui est vraiment un petit peu glauque, quoi, tu vois, quoi. Orange Cinéchoc, toujours lundi, vous propose L'Exécuteur vous salue bien de Silvio Massi en 77. C'est italien, bien entendu, mais c'est surtout avec Luc Miranda. Rappelle-toi, Château Vallon.
Oh.
Ah oui. Et Thomas Millian, donc c'est la garantie d'un bon film, quoi, de toute façon. Quoi. Thomas Millian. Rappelez-vous, Chantal Nobel.
Magnifique.
Bonjour à Sacha Distel.
Bon, allez, continue là, sinon c'est... on va l'avoir en entier, Château
Vallon. Mardi, sur Ciné Classique, Cinéma Classique. Et ça, je m'en rappelais pas, quoi. Mais c'est vrai que c'est un original à 20h40, Winchester 73, qui a été retourné après. Bon, pas en Angleterre, mais c'est une production britannique dans les années 70. Là, c'est l'original d'Anthony Mann en 50 avec James Stewart chez les Winters, mais dans un rôle de jeune première. Bon, après, elle était plus jeune première, donc elle préfère faire dans le rôle d'hystérique qui lui réussit très très bien. Il n'y a pas de problème, elle est excellente. Également, Dan Duryea. Sur Orange Ciné Happy, alors là, c'est une. Un excellent, excellent film hein, qui a d'ailleurs donné lieu après à une série de films, de petits films d'animation hein, qui ont été diffusés sur France 3 à un moment donné. Il s'agit d'Osmosis Jones des frères Farrelly en 2001 avec Bill Murray, Elena Franklin. Enfin bon, là c'est moitié filmé, moitié séquence d'animation et tout. Et ça raconte l'histoire d'un globule blanc qui va devoir sauver le corps dans lequel il est enfermé parce que le personnage, c'est-à-dire la personne dans laquelle le globule blanc est enfermé, se bouffe n'importe comment et tout. Donc, est en train de détruire son corps, en fait. Hein, il bouffe que des hamburgers, des trucs comme ça et tout, quoi. Et donc, le rôle du globule blanc, bien sûr, dans le corps humain, vous le savez tous, hein, ben, c'est de réparer les dégâts, de tuer les méchants leucocytes qui sont là et qui essaient de te rendre malade.
Non,
hein,
non, un leucocyte est un globule blanc.
Non, de tuer les...
Je te voyais venir depuis tout à l'heure. Hein.
Et, mais c'est vraiment excellent. Hein. De toute façon, c'est du Farrelly, il n'y a pas de problème et tout. Il n'y a pas de prout-prout caca dont ont l'habitude les frères Farrelly.
Le bit coincé.
Parce que, ça s'adresse à tout public. Hein, ouais. C'est-à-dire, les gosses peuvent le regarder et tout. Et sont pliés de rire de toute façon. C'est Osmosis Jones, mardi prochain sur Orange Ciné Happy. Mercredi, du bon film, mercredi, hein, avec sur Cinéma Star. Presque célèbre, le film de Cameron Crowe hein, qui a eu l'Oscar du meilleur scénario en 2000 hein, pour cette adaptation de sa vraie vie. Hein, il était chroniqueur dans ses années adolescentes. Il a été chroniqueur, il suivait des groupes de rock et tout en tournée quoi, pour faire des comptes rendus dans le magazine Rolling Stone. Et c'est qu'après hein, qu'il est passé à la réalisation. C'est donc mercredi prochain 20h40 sur CinéFX, le grand classique. Justement tu parlais de Loup-Garou avant, j'ai pas cru voir ce film cité dedans et pourtant c'est un des chefs-d'œuvre du genre, le Loup-Garou de Londres de John Landis en 81 avec David Naughton, Griffin Dunne, Jenny Agutter et Patrick Macnee dans le rôle du méchant. sur Orange Ciné-Choc mercredi prochain à 20h40, également un grand classique excellent, Le Jour de la Bête d'Alex de la Iglesia entre autres Alex Angulo, et surtout, Orange Ciné Géant, mercredi prochain à 20h40, La Révolte des Indiens Apaches de Hans Reinl en 63, une coproduction allemande, italienne, yougoslave avec Pierre Brice. Qui est Pierre Brice ?
Dit quelque chose.
Séquence de rattrapage, tic.
Pierre
tic,
Brice, tic, un acteur de série
tic,
télé.
Tic, tic, un chef indien, tic, tic, tic. Dans les montagnes du Tyrol, tic. Tic, tic,
Je sais pas.
Tic, Winnetou, bien sûr. Pierre Brice, l'acteur.
Qui vient de faire un bide.
Ah ouais, oui, mais bon. Pierre Brice, donc, avec Lex Barker et Marie Versini, suivi d'un autre Winnetou, le trésor des montagnes bleues, tourné l'année suivante, en 64, par le même Reinl, avec toujours Pierre Brice à 22h20. C'est sur Orange Ciné Géant, mercredi prochain. Jeudi, ça me rappelle mes jeunes années, ciné-cinéma famille à 20h40, L'Incroyable Randonnée, un Disney avec des animaux, puisque ça raconte l'histoire de deux chiens et d'un chat qui vont devoir parcourir une distance incroyable, ils ont traversé le Canada en fait pour retrouver leur maître, avec Emile Jeunesse, John Draney et Sandra Scott qui ne jouent pas le rôle des animaux, je vous rassure. De toute façon, on les voit très peu. Hein. Tu les vois au début, tu les vois à la fin. Puisque bon, ils sont là, on part et tout. Bon, on va là-bas et puis hop, à la fin du film, tu dis ah, ils sont là, ils sont arrivés. Mais c'est magnifique, c'est excellent, c'est très beau. Ça a été tourné en 63 par Fletcher Markle, l'incroyable randonneur. Jeudi prochain sur Cinéma Famille et dans le même genre hein, tout aussi excellent sur Disney Ciné Magic jeudi prochain 20h30, Un Amour de Coccinelle, Et oui, l'original, avec Robert Stevenson en 68, avec Dean Jones, Michel Lee et Buddy Hackett.
Et Volkswagen.
Sinon, plus sérieusement, au niveau classique, sur TCM, jeudi prochain à 22h40, pour Qui sonne le glas, le film de Sam Wood.
Classique.
Avec Gary Cooper, Ingrid Bergman et Hakim Tamirov. Hakim Tamirov qu'on retrouve dans les années 60, dans tous les films de KBDP français. Gérard Barret, les gens Marais et tout. T'as Hakim Tamirov, le miracle des loups et tout. Enfin, tous ces films-là, Hakim Tamirov, il y est, quoi, tu vois. Ciné Polar, jeudi prochain à 21h. La Scorta, l'escorte de Ricky Tognazzi en 80. Excellent polar, très bon polar. Et d'ailleurs, si JB était là, il vous dirait la même chose. Hein. Il vous dirait oh oui, c'est très bien. Ça, c'est très bien.
Ça fait partie de, de l'excellente vague noire italienne.
Ah ouais. Là,
comme les 100 jours à Palerme et tout ça, c'est immense.
C'est la nouvelle vague là. Ricky Tognazzi, le fils de Hugo, c'est déjà les 100 jours à Palerme et tout, c'est déjà réalisé par un des réalisateurs de l'ancienne vague. Hein, c'est Francesco Rosi, me semble-t-il, quoi.
Oui.
Hein, fasciste notoire d'ailleurs, en plus, quoi. Là, c'est bon, les années 90, donc quoi, ça a changé la matière de manière de filmer et tout, le rythme et tout. Mais c'est vraiment très très bien. Hein. Et avec Claudio Amendola, Enrico Laverso et Ricky Memphis. Jeudi toujours, Monsieur Verdoux de Chaplin sur Orange Ciné Géant à 20h40. Vous n'avez jamais vu peut-être un film où Chaplin parle, c'est normal, c'était des muets. Bah là, Chaplin parle.
Il y a Le Roi à New York. Le Roi de New York.
Oui, mais bon, c'est.
Mais c'est... il en a fait que 2-3 en
Oui, voilà. À la fin des années 40, quoi. Celui-là, il date de 47. Le Roi à New York, je crois, date de 44 ou de 45, me
beaucoup
semble.
Plus tardif.
C'est après Monsieur Verdoux.
Ah, ça se décidera dans les commentaires.
Ouais, peut-être t'as raison. Non,
il est en couleur, il est beaucoup plus tardif, je crois qu'il est carrément des années 50.
Celui-là est en noir et blanc, hein, de toute façon. Quoi. Donc, et en fait, c'est l'histoire de Landru, hein, retravaillée par Chaplin. Attention, c'est pas un film drôle, c'est pas un film avec des sketchs et des trucs comme ça. C'est un film grave Chaplin, quand il est jugé, quand Landru est jugé. Enfin, quand Monsieur Verdoux est jugé, nous sort des diatribes et des trucs, c'est assez impressionnant quand même. Hein. Là, Chaplin, il a vraiment largué pas mal de choses qu'il avait sur le cœur et qu'il ne pouvait pas vraiment expliquer visuellement. Hein, des choses, il fallait des mots pour les expliquer. Là, ok, quoi. Il règle ses comptes avec pas mal de gens, faut dire aussi, dans ce film, à travers ce personnage de Monsieur Verdoux. C'est un chef-d'œuvre, hein, ce film, hein. Il n'y a pas de problème. C'est sur Orange Ciné Géant, jeudi prochain, à 20h40. Vendredi.
Je m'excuse, mais on a vu Chaplin parler dans Le Dictateur.
Ouais, bon, d'accord, mais enfin bon, c'est pas le propos principal en fait, hein, tu vois.
Ouais,
c'est,
pardon.
Hein, là, c'est le texte, le discours qui est important quoi dans Monsieur Verdoux, hein, plus que l'image quoi en fait quoi. Quoique l'image hein, chez Chaplin, de toute façon, il n'y a pas de problème, hein, c'est toujours hyper travaillé. Vendredi, Canal+, première diffusion d'un film que tu as chroniqué pas plus tard que l'année dernière. Sly et John Rambo, bien sûr. Ouais, c'est sur Canal+ à partir de vendredi prochain, 20h45.
C'est pas ma guerre. Ouais.
Vendredi prochain également sur Syfy à 20h45, le retour de Merlin l'Enchanteur de Paul Matous en 99 avec un casting qui vaut ce qu'il vaut, mais enfin bon, ça a l'air appétissant. Bon, bah, la présence de Rick Mayall, on se dit bon. Qu'est-ce que ça peut donner? Mais bon, ça peut être rigolo quand même. Mais sinon, après, ça tient le choc. Hein. Patrick Bergin, Craig Schaeffer et Adrian Paul. Highlander.
Oh non, oh, mais il fait quoi lui dedans?
Et Tia Carrère aussi.
Il fait l'huître.
Le casting. Exception,
fait le hibou.
Exception en fait des gens que je viens de citer, hein, qui sont des Anglais ou des Britanniques, on va dire. Bergin est irlandais. Adrian Paul est anglais, hein, il est né à Londres. Le reste du casting est américain. Pourtant, c'est un téléfilm britannique. C'est sur Syfy, vendredi prochain à 20h45. Sur Cinéma Famise. Alors là, celui-là, il est assez rigolo à regarder quand même. C'est un film pour les enfants, on va dire. Hein, c'est Sky High, l'école fantastique de Mike Mitchell avec Kurt Russell et Kelly Preston. Et qui est un petit peu. Alors, c'est un petit peu l'équivalent, si tu veux. C'est un petit peu l'équivalent de ce que Roberto Rodriguez a fait avec Spy Kids.
Oui. Voilà. Sky High, c'est avec des super-héros.
Voilà, voilà. Mais
avec
c'est des jeunes ados.
Avec Kurt Russell qui est vraiment ridicule dans son.
Ouais. Alors, il y a des sapes. Alors là, tu pisses dessus tellement c'est ridicule. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, le truc qui est assez intéressant, c'est que comme les héros, hein, je crois que c'est un groupe de 4 ou 5, hein, y a deux nanas et trois mecs, sont adolescents, ils commencent à avoir également des petites histoires d'amour comme ça, c'est des trucs
adolescents. Ils sont des poussés, quoi.
Ouais,
ils sont leur chaleur.
Mais seulement.
Philippine.
Ouais. Alors moi, ça c'est rigolo à regarder quand même, quoi. Donc c'est Cinéma Famille, Sky High, vendredi prochain à 21h. Sur Ciné Cinéma Star, Patty Hearst, le film pratiquement documentaire de Paul Schrader en 88 avec Natasha Richardson, William Forsythe et Ving Rhames. Sur la chaîne Action, vendredi prochain à 21h, celui-là, rien que le titre, tu sais. Méfie-toi Ben, Charlie veut ta peau. De Michele Lupo en 72 avec Giuliano Gemma, hein, et George Eastman. Et on termine avec un chef-d'œuvre jamais égalé de toute façon, sur CinéFX à 21h, Les Chasses du Comte Zaroff, Ernest Bechetzak et Irving Pichel en 32 avec Leslie Banks et le grand Joel McCrea, bien sûr.
Tu finis pas par Clint Eastwood.
Et non, j'en ai pas trouvé.
Oh merde!
J'en ai pas trouvé, je suis désolé là. Ah. Honte à moi.
Allez, rapidement, ne pas oublier que demain, c'est la fête de la bande dessinée à EOS. Donc, plus d'informations sur eosaeuzbd.com. Pour le plan d'accès, pour le prix, c'est gratuit. Sauf ce soir, je crois qu'il y a un repas sur préinscription à 20€ qui vaut le coup, puisque c'est un repas avec une bandasse et tout comme ça. Donc, c'est plutôt sympa. Et c'est franchement recommandé par nous. C'est une sortie vraiment à faire parce que voilà, les auteurs sont accessibles. Il y a plein de dessinateurs au genre très différent et vraiment un vaste panel. Thomas, peux-tu, s'il te plaît, faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route ?
Oui, tout à fait. Nous avons eu de la farce autoproclamée pour les geeks de la guerre, deux top 5, les retours de Big Nose, Gali, Epitaphios, Brigade Criminelle, mais pas celui de Clint Eastwood, de la baston qui trompe, on a eu des ballons, on a eu des instruments oubliés, de la real world music du monde over the world, des films dans le speed, du naturel qui tombe et un bide.
Non, d'une choucroute garnie. Ils ont manqué tout ça. Je ne savais pas quoi mettre. Et comme j'ai essayé de placer choucroute garnie dans toutes mes conversations.
Ah, t'as perdu en Paris.
Voilà. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission. Et aussi retrouver les chroniques écrites, aller dans nos archives, jouer à des quiz stupides, laisser vos commentaires, vous inscrire au club des auditeurs, poser vos questions, n'hésitez pas. Pour cela, c'est très facile. Il suffit d'aller sur le site web supplementweekend.fr. Et vous laissez guider, vous écoutez FMR sur 89.1 MHz, nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM, et on continue sur radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, peut-être la semaine prochaine, pour l'instant on n'en sait pas trop, savoir qui c'est qui est là, qui c'est qui est pas là, on va essayer quand même, ce serait dommage, donc on se retrouve normalement samedi prochain, même heure, même fréquence, ciao, bye bye,
ciao. See you.
Merci pour les heures, enfin, je vais essayer un peu de me calmer cette semaine. Allez, ciao, plus ça.